Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour! Bonjour les copains! Bienvenue! Comment ça va? Bonjour tout le monde! Incroyable! Bonjour à toutes et à tous! Ceci est un stream hors programmation! Désolé, hein! La prog, elle est sur mon Twitter, tout ça, mais quand j'ai fait la prog, on ne savait pas que le président, il allait parler, et je ne savais pas que j'aurais les droits de diffusion. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue! J'espère que vous allez bien! Très heureux de vous retrouver. Bienvenue, bienvenue. On va suivre ensemble l'interview événement du président de la République à l'occasion du JT de 13h sur TF1 et France 2. TF1 et France 2, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des sites internet sur lesquels vous retrouvez toute une programmation de vidéos en direct ou en différé. Ils font du divertissement, de l'information, de la musique, du cinéma, des séries, des programmes courts, des magazines. Et ils ont aussi un autre canal de diffusion qu'on appelait la télévision à l'époque. Et voilà. Bref, j'ai acheté les droits de diffusion pour cette émission. Et donc, on va pouvoir regarder ensemble. Cette prise de position du président de la République, prise de position très attendue puisque la crise politique qui a été ouverte déjà avec la réforme des retraites depuis plusieurs semaines et en plus aggravée avec le 49-3 ne se referme toujours pas. Donc le président de la République a besoin de reprendre la main et de communiquer, de s'exprimer. Il est attendu, le président de la République, c'est à lui de reprendre l'initiative politique compte tenu de la crise. Donc on va suivre ça ensemble. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, installez-vous confortablement, faites-vous couler un café, une bière, ce que vous voulez, je m'en fous. Très heureux de vous retrouver. Est-ce que c'est difficile de négocier pour acheter les droits? Je réponds pas à cette question. Joker. On va discuter de tout ça, ça commence à 13h, on a une heure pour préparer l'interview, se replacer dans le, dans l'actualité, dans le contexte, etc. Je vais essayer de vous aider autant que possible à vous y retrouver. C'est le but de ce stream, bienvenue à vous, installez-vous confortablement, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Hop là. Très beau le hoodie Baxi, t'as vu, il va bien, hein, il marche bien, hein, incroyable. Comment vas-tu? Non, moi ça va, ça va, ça va. J'ai mal dormi cette nuit. Oh là là, j'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais au The Event, mais que j'étais super mal placé dans la salle. J'ai rêvé qu'il m'avait mis dans une salle à côté avec les gens qui faisaient de l'administratif, le service compta, tout ça. Et j'allais voir Dash et je lui disais, s'il te plaît. Et Dash, il me disait des os. Tu vas faire tout ton The Event là, dans la salle d'à côté. J'ai dit, mais c'est nul. Voilà, c'est mon cauchemar cette nuit. Faut que j'en parle à mon psy. Ah, faut d'abord que je prenne un psy. C'est vrai. Au placard du The Event. Pauvre René de la Compta. Complexe de l'imposteur. Ah oui, complètement full. Full. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plein de trucs à dire. Hein. En ce moment, il se passe des trucs. Hein. En ce moment, il se passe des trucs. Vous avez suivi sur ma chaîne et vous avez bien raison. La non-adoption des motions de censure, c'était lundi, suite à l'engagement du 49 alinéa 3. Le Parlement, l'Assemblée nationale n'a pas adopté de motion de censure sur la réforme des retraites. Donc, conformément à la Constitution, la réforme des retraites est considérée comme ayant été adoptée par l'Assemblée nationale, faute d'adoption d'une motion de censure. C'est le principe du 49-3. La motion de censure, le texte ayant été adopté par le Sénat, ça y est, le Parlement a adopté le texte, qui va donc maintenant passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel qui a été saisi par des députés d'opposition, notamment des députés de la NUPES, mais également par le gouvernement lui-même, comme la Première ministre en a le droit. Le Conseil constitutionnel qui va donc avoir, a priori, alors normalement c'est 30 jours, mais il y a des procédures accélérées, je crois qu'ils vont activer la procédure accélérée, donc c'est 8 jours pour se prononcer sur la constitutionnalité du texte de réforme des retraites, et à l'issue du passage devant le Conseil constitutionnel, la loi sera promulguée, en tout cas sa partie qui n'aura pas été censurée par le Conseil, sera promulguée. On attend donc la décision des sages de la rue de Montpensier donc le Conseil constitutionnel, sur cette réforme, sachant que les observateurs avisés disent qu'il ne faut pas attendre grand-chose du Conseil constitutionnel, il y a peu de chances qu'ils censurent la réforme des retraites. Ce n'est pas contraire à la Constitution de réformer les retraites. Il y a des questions qui se posent sur des mesures annexes. Éventuellement, peut-être que procéduralement, ça n'aurait pas pu faire l'objet d'un budget rectificatif de la Sécu. On va voir, mais il y a peu de chances. En tout cas, le cœur de la réforme lui-même, le passage de 62 à 64 ans d'âge légal de départ à la retraite, n'est pas contraire à la Constitution par principe, donc peu de chances. Peu de chances que ça ne passe pas. C'est quoi le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, c'est une institution de la Ve République qui a pour rôle justement de contrôler que les lois sont conformes à la Constitution avant qu'elles entrent en vigueur. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, plus les anciens présidents de la République qui en sont membres de droit, et il est présidé actuellement par Laurent Fabius. Peut-on passer par un référendum d'initiative partagée? Un référendum d'initiative partagée va être proposé par des parlementaires, notamment de gauche, mais ça va prendre du temps. Et le référendum d'initiative partagée ne concernera une hypothétique loi d'abrogation de la réforme des retraites. Mais ça va prendre du temps, parce qu'un référendum d'initiative partagée, pour que ça entre en vigueur, il faut plusieurs mois, hein. Ça prend du temps. Donc c'est pas pour tout de suite. Est-ce que ça arrive souvent que le Conseil constitutionnel refuse une loi? Ça arrive effectivement que le Conseil constitutionnel censure, comme on dit en droit, censure des textes ou alors des parties de textes. Parfois c'est un article, deux articles, pas tout un texte, qui sont censurés et le reste peut entrer en vigueur et donc il faut repasser par la case Parlement pour réécrire mieux la loi. C'est arrivé effectivement à plusieurs reprises, ça arrive souvent. Parfois c'est très technique, parfois c'est sur des trucs un peu plus importants. On se souvient par exemple de la loi Avia qui avait été censurée. Donc voilà quoi. Est-ce qu'ils peuvent changer ou écrire un passage? Non, le Conseil constitutionnel ne peut pas écrire lui-même un passage du texte. En revanche, il peut expliquer pourquoi il censure un passage du texte, renvoyant ainsi le texte au Parlement, charge à lui de mieux écrire le texte pour cette fois-ci correspondre à la Constitution. Tu vois? Comme ça que ça marche. Est-ce qu'il peut censurer le texte? Oui, il le peut. Mais pour ça, il faut qu'il le justifie. Il faudrait que le Conseil constitutionnel nous explique en quoi le texte est contraire à la Constitution. Voilà. Constitution, pour être plus précis, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, donc il comprend aussi d'autres textes auxquels fait référence la Constitution. Je rentre pas dans le détail, mais grosso merdo, c'est essentiellement les droits de l'homme, l'organisation des pouvoirs publics. Pour faire très simple. Est-ce que la loi est mise en stand-by pendant le délai de 9 mois pour recueillir les signatures? Tu fais référence au référendum d'initiative partagée? Non, un référendum d'initiative partagée ne met pas entre parenthèses la réforme des retraites qui commencera à s'appliquer, a priori, dès le mois de septembre prochain, je crois, les premières mesures entrent en vigueur. Donc non, ça ne met pas en stand-by la réforme des retraites. Objectivement, il n'y a aucune chance qu'il bloque. Objectivement, je vous le redis, il y a très peu de chances que le Conseil constitutionnel censure le cœur de la réforme des retraites. Il pourra éventuellement censurer des parties un peu annexes de la réforme, sur des dispositifs comme l'index senior, des trucs sur la pénibilité, machin, mais décaler l'âge légal de départ à la retraite n'est pas contraire à la Constitution par principe. Jusqu'à présent, ça n'a pas été jugé contraire à la Constitution. Je vois pas pourquoi ça le deviendrait maintenant. Mais bon, on verra. Donc voilà. Où est-ce qu'on peut trouver la loi pour la lire? Tu peux directement aller sur le site internet de l'Assemblée nationale, c'est assez bien fait. Tu cherches ce qu'on appelle le dossier législatif et tu verras, c'est une page web sur le site internet de l'Assemblée sur lequel tu peux cliquer sur le doc PDF et tu peux lire la loi. Tu verras, c'est chiant à mourir comme littérature. C'est quand même un budget rectificatif de la Sécu, c'est chiant, hein. Mais tu peux la lire. Est-ce qu'il y a un délai maximum de retrait de la loi par le président? Tu veux dire de non-application de la loi? Non, il n'y a pas de délai. Le président de la République peut. Alors, une fois qu'elle est entrée en vigueur, non. Il faudrait qu'il en vote une nouvelle, quoi. Mais effectivement, on a déjà vu en 2006 un président de la République annoncer la promulgation d'une loi, mais sa non-application. C'est un peu particulier, mais c'est déjà arrivé par le passé qu'on promulgue une loi et que le gouvernement dise bon, bah en fait, on va pas l'appliquer. En gros, tu prends pas les décrets d'application et puis ça règle la question. Donc voilà. Il faut forcément re-réformer ou ça peut être abrogé à l'avenir. Bah, techniquement, une abrogation, c'est une re-réforme. Enfin, on peut jouer sur les mots si tu veux, mais à partir du moment où une loi entre en vigueur, pour la changer, il faut voter une nouvelle loi. Après, je ne sais pas ce que tu mets dans cette loi, hein. Ça, c'est charge au prochain gouvernement qui voudra modifier cette loi de nous faire une proposition et voilà. Peux-tu expliquer le parallèle avec l'abrogation de la loi CPE? Non, en fait, le parallèle, j'en sais rien, là, c'est hypothétique, hein. Le parallèle, c'est que le CPE, donc c'était la loi de 2006, le président de la République l'avait promulguée. Donc elle était censée entrer en vigueur, sauf qu'il avait demandé au gouvernement de ne pas l'appliquer. Donc c'était très bizarre, mais donc il y a une loi qui a été promulguée, mais qui n'a jamais été appliquée. Est-ce que le Parlement peut faire quelque chose contre le gouvernement s'il ne promulgue pas de décret d'application sur une loi qu'il vient de voter? Non. Non, le Parlement peut éventuellement, dans la loi, écrire des délais, forcer un petit peu l'application à partir d'une date, etc. Donc ça met un compte à rebours sur la tronche du gouvernement qui doit se démerder pour adopter ces putains de décrets. Mais ça reste un vieux débat. Un gouvernement qui émet de la mauvaise volonté, il peut toujours casser les couilles. Hein. C'est pour... Voilà. Bref, toujours est-il que à 13h, on va suivre l'allocution, enfin pas l'allocution, l'interview du président de la République. Le président de la République qui est très attendu, sachant que l'on sait qu'hier, Emmanuel Macron a réuni les députés de sa majorité au palais de l'Élysée pour leur parler, pour les écouter. On sait que pas mal de députés de la majorité sont assez remontés contre l'Élysée et sa méthode et le passage par 49-3, etc. On n'est pas encore face à une fronde. Fronde étant le mot qu'on a utilisé à l'époque des socialistes pour désigner des députés qui allaient jusqu'à voter contre des textes, s'abstenir, voter contre, voire même signer des motions de censure sans les voter. Mais ça commence à grincer. Le président de la République, à l'occasion de cette réunion à l'Élysée, a déclaré que il n'y avait pas de majorité alternative à la majorité relative actuelle de Renaissance, Horizon et le MoDem, effectivement, compte tenu du fait que la motion de censure n'a pas été adoptée, donc il n'y a pas de majorité alternative, mais il n'a pas pour autant de majorité. On est dans ce moment bizarre où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité pour adopter la réforme des retraites, et il n'y a pas non plus de majorité pour faire tomber le gouvernement. Si ça, c'est pas un blocage, je sais pas ce que c'est. Il a annoncé, en tout cas Emmanuel Macron, qu'il n'avait pas l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de passer par un référendum et il a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de remanier le gouvernement, en tout cas pas tout de suite. Ce que l'on sait, c'est que Emmanuel Macron souhaite se donner 2 ou 3 semaines pour essayer de faire rebaisser la pression et une autre manière de dire, il attend de voir comment vont évoluer les choses. Il attend de voir quel sera le chiffre des mobilisations, des manifestations, notamment demain à l'appel de l'intersyndicale. Il attend de voir les prises de parole de Laurent Berger dans l'excellente émission Backseat demain soir. À partir de 20h50 sur Twitch, pour savoir un peu comment, sur quel pied danser et savoir ce qu'il va faire et quelle initiative il prendra pour l'avenir de son quinquennat. Il se dit qu'Emmanuel Macron souhaiterait reprendre la main via un projet de loi sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Peut-être qu'il va essayer de fracturer le front syndical là-dessus. Il se dit qu'Emmanuel Macron souhaite reprendre la main également en réformer les institutions. On va voir. On va voir, pour l'instant on est dans un entre-deux, toujours est-il que la parole d'Emmanuel Macron est très attendue en ces temps particulièrement troublés, puisque depuis jeudi dernier, la France est parcourue de manifestations tous les jours, manifestations qui sont émaillées de violences policières. On est dans une ambiance proche de ce qu'on a connu à l'époque des Gilets jaunes. C'est proche de ce qu'on a connu à l'époque des Gilets jaunes, avec son cortège de vidéos d'arrestations arbitraires, d'exactions menées par des forces de l'ordre dans des opérations de maintien de l'ordre particulièrement rock'n'roll dans les grandes villes, des gardes à vue à l'appel, des comparutions immédiates qui sont où les gens ressortent libres parce qu'en fait il n'y a pas d'infraction caractérisée. Bref, on est dans un contexte de forte tension sociale. Emmanuel Macron sera-t-il interrogé tout à l'heure par les journalistes? Je ne sais pas, je l'espère. On verra, on verra, on verra, on verra. Tu oublies les manifestants violents. Il y a aussi des manifestants, effectivement, qui s'adonnent à des actes de violence. On voit notamment des feux de poubelle, des vitrines brisées. Mais on voit aussi des forces de l'ordre être violentes. Donc voilà. Est-ce que c'est spécifique à la France, un président qui a autant de pouvoir en démocratie? Grosso merdo, en Europe, oui. Pour faire simple, oui. Oui, on a, la Ve République, c'est un peu une exception, hein. La rationalisation à ce point-là du parlementarisme, c'est pas tous les jours, hein, dans les autres pays. Est-ce qu'il a connaissance des questions? Je sais pas si Emmanuel Macron a connaissance des questions avant l'interview. De toutes les façons, il n'y a pas de piège, hein, dans l'interview. Là, franchement, c'est pas une interview compliquée à préparer pour le président de la République, hein. On connaît le sujet, on connaît le contexte. S'il a des messages à faire passer, il les connaît. Il n'y a pas besoin de connaître les questions. Bonjour, c'est quoi Backseat? Backseat, c'est mon émission hebdomadaire en plateau et en public. C'est un talk show d'actualité politique sur Twitch que tu peux regarder sur ma chaîne le jeudi à 19h. À partir de 19h, ça dure 3 heures d'émission avec des chroniqueurs, avec des invités politiques, avec des sujets d'actu. C'est du décryptage, de l'analyse. Voilà. Est-ce que tu as un lien pour la caisse de grève, s'il te plaît, merci d'avance. Non, j'ai pas de lien pour une caisse de grève. Il y a plusieurs caisses de grève qui ont été ouvertes. Une caisse de grève, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une cagnotte de financement participatif, en fait. On va dire ça comme ça, hein. Ça existe depuis plus d'un siècle, mais là, grâce à Internet, c'est un peu revenu à la mode depuis 2020. Les caisses de grève permettent aux personnes qui soutiennent les grévistes de donner de l'argent. Argent qui ensuite est réparti entre les grévistes pour leur permettre de tenir dans leur mouvement de grève. Est-ce qu'on peut espérer un retour en arrière vraiment? Non, il ne faut pas s'attendre. Enfin, bah, écoutez, on verra. Moi, je suis comme vous. On va voir ce que va dire le président de la République. Il ne faut pas s'attendre à ce que le président de la République retire sa réforme des retraites. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il annonce une dissolution, un référendum ou un remaniement. Je pense qu'Emmanuel Macron ne va pas dire grand-chose. En tout cas, il ne va pas annoncer grand-chose. Après, il va nous expliquer sa manière à lui de voir les choses. Peut-être qu'il va reprendre les mots qu'il a utilisés devant les parlementaires de la majorité hier lorsqu'il a dit, je cite, que la foule ne s'oppose pas à la légitimité des élus qui votent, ce qui est particulier puisque les élus n'ont pas voté la réforme des retraites, et la foule, bah, ce sont des manifestants et c'est une manière particulière de considérer les manifestants. C'est une manière plus vulgaire de dire ce qu'avait dit Dominique de Villepin en 2005 quand il avait dit j'entends ceux qui manifestent, j'entends aussi ceux qui ne manifestent pas. Le choix du 13h pour parler est un peu particulier aussi. Oui, Emmanuel Macron a choisi d'intervenir dans un journal télévisé de 13h. Écoute, je ne sais pas comment on peut analyser ça. C'est une manière peut-être de dédramatiser la situation. Le journal de 20h, c'est très dramatique. C'est la grand-messe de l'information, etc. Demandez à vos parents, ils vous expliqueront ce que c'était que le 20h à l'époque. Donc c'est très dramatisant. Donc le 13h, c'est un journal télévisé en général plus axé sur les territoires, sur le quotidien. Donc c'est une manière de dédramatiser. Bon, il y a eu des communicants de l'Élysée qui ont expliqué que c'était une manière de s'adresser à la France qui travaille en province. Une lecture très parisienne et de la province et des travailleurs. Mais bon, apparemment, les gens en province, à la campagne, les gens rentrent déjeuner à midi. Alors qu'on sait que les salariés sont sur Twitch. Il a dit pour les mamans. Oui, j'ai vu, oui, pour les mamans. Donc les mamans, elles font la tambouille à la maison toute la journée, elles attendent que le mari revienne de l'usine. C'est vraiment les gars. Eh oh, s'il vous plaît, la ménagère. Elle veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. On n'a dit pas les mamans. En plus, on n'a dit pas les mamans. Alors qu'on sait très bien que elle se tape le facteur. Ça va, c'est bon. Je regarde du boulot. Ah ben non! À l'Élysée, ils ont dit que tu devais pas bosser entre midi et deux. La pause méridionale obligatoire pour regarder le 13h. Non mais Jean, wesh. Ça va. T'as pas remarqué que tu ressemblais vachement plus au facteur qu'à ton père? Ça va, on rigole, oh là là. Je suis facteur, je confirme. Ça va finir comment cette histoire selon toi? Franchement, c'est une bonne question, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Même si, à force de le dire, l'année dernière, il y a un viewer qui m'a offert une boule de cristal, je trouve ça très drôle. Il faut que je la retrouve, elle est au studio, mais voilà, on m'a offert une boule de cristal. Mais donc, bref, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas comment ça va finir. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron va attendre quelques semaines pour ne pas prendre de décision dans la précipitation. Il ne veut pas surréagir, et que les quelques semaines qui vont s'écouler maintenant vont être cruciales, à la fois d'un point de vue institutionnel, et dans l'antichambre du pouvoir, du côté de la majorité, où il y a des jeux d'alliance et de pression qui vont être mis pour essayer d'impulser, ou en tout cas de peser sur l'avenir du Parlement, du gouvernement, pardon. Du côté des oppositions aussi, l'avenir va être important, puisque est-ce que les manifestations quotidiennes vont continuer? Est-ce que la manifestation de demain va être massive? Est-ce que l'audience de l'émission Backseat demain soir va être historique, compte tenu de la prise de parole de Laurent Berger, le patron de la CFDT? Toutes ces questions-là sont des questions qui vont peser dans la balance pour les choix futurs du gouvernement, des oppositions, etc. Donc à suivre, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais pas comment ça va finir. J'ai pas plus d'infos que vous. J'attends de voir. Je vois pas comment Macron va réussir à sauver les apparences. Écoute, je ne sais pas non plus, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas non plus comment est-ce qu'Emmanuel Macron va trouver les mots pour essayer de... Est-ce que les appels au calme d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'attendent les manifestants? Probablement pas. Est-ce que renvoyer les manifestants à la légitimité institutionnelle de notre Constitution, ça va les rassurer? Je pense pas. Le 49-3... C'est pas parce que c'est dans la Constitution que c'est apprécié par les Français, que c'est jugé démocratique. C'est quand même un article très lourd de la Constitution, qui est très chargé, qui dit des choses. Enfin voilà, c'est. Mais c'est vrai qu'on peut observer qu'Emmanuel Macron a laissé la main à son gouvernement pour cette réforme des retraites. Emmanuel Macron a souhaité prendre de la distance et du recul et ne pas se mettre en avant sur cette réforme des retraites. Il a envoyé en gros Elisabeth Borne, sa première ministre, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, faire le boulot de défendre la réforme et de la faire voter à l'Assemblée. Ils n'ont pas réussi à la faire voter. Ils ont réussi, avec une victoire à la Pyrrhus, à ne pas se faire renverser par un 49-3, ce qui est une victoire. En demi-teinte, hein, pour le gouvernement. Elisabeth Borne a beau fanfaronner en disant que c'est une victoire. Ne pas se faire virer à 9 voix près, en termes de victoire, on a vu mieux. Par ailleurs, c'est une réforme qui reste très impopulaire. Donc voilà, en tout cas, c'est pour ça que Emmanuel Macron reprend la main, dans cette interview, aux 13h aujourd'hui. Il souhaite reprendre la main, essayer de, je sais pas, d'appeler au calme. Tu vas pas regarder en live? Si, 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 si. Si, 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 je vais diffuser l'interview. Ah bah si, si, je vais la diffuser l'interview. J'ai acheté les droits, ça m'a coûté un bras. C'est pas pour c'est pas pour ne pas vous la montrer. Quand même. C'est pour vous, hein. Est-ce qu'il peut annoncer finalement être contre la réforme? Ah oui, s'il veut. Il peut annoncer, hein. Il peut annoncer qu'il retire la réforme. Je vous invite à ne pas trop attendre ça, hein. C'est probablement pas ce qui va se passer. Non, je vais pas vous dire combien ça m'a coûté. Parce que sinon, j'aurai plus de marge de négociation après. C'est le secret des négociations commerciales. Désolé. Vous emmerdez pas. Si vous voulez participer, vous pouvez faire un don pour soutenir mon émission Backseat. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'elle existe, cette émission. Merci. Merci, merci. Et si on arrive à 206 000 euros, on pourra faire Baxit jusqu'au 13 avril prochain. Ce serait cool. C'est du direct ou en différé l'interview? C'est une bonne question. Je pense que c'est en direct. Je pense que c'est en direct. Est-ce que vous avez des questions avant que ça commence? Bah, de toute façon, ça commence dans 30 minutes. Hein. Vous avez le temps encore. Vous pouvez vous faire chauffer un plat. Vous pouvez prendre un café, tout ça, tout ça. Que penses-tu de la venue de Charles III à Versailles? Ah oui, il y a la visite diplomatique du roi d'Angleterre, Charles III, qui va être reçu par Emmanuel Macron à Versailles cet après-midi, je crois. Le symbole est pas ouf. En ces temps de fièvre, quand on connaît l'histoire du peuple français, avec les têtes couronnées. Ce qu'il veut, hein. L'histoire d'une partie du peuple français. C'est vrai. Not all français. Not all français. C'est pas une reine en Angleterre? T'es nouveau, toi. T'es nouveau, toi. On t'a pas dit? La reine d'Angleterre a changé de sexe. Ça va, on rigole. Qui sont les journalistes et est-ce que les questions sont données à l'avance à l'Élysée? Alors je sais plus qui sont les journalistes. Je vous avoue que j'ai pas regardé la télé depuis le début du siècle. Est-ce que les questions sont données à l'avance à l'Élysée? J'en sais rien, je sais pas. Et en même temps, il n'y a pas de surprise, hein, les questions, on les connaît. Hein. Enfin, vraiment, je vois pas pourquoi l'Élysée aurait besoin des questions, franchement. Les questions, on les connaît. 49-3, réforme des retraites, maintien de l'ordre, allez-vous dissoudre, allez-vous remanier, allez-vous soumettre à référendum que répondez-vous à la violence policière enfin, genre, franchement. Qui c'est qui présente? Je sais pas. Vous avez les noms dans le chat? Non, c'est pas Léo Salamy. C'est Anne-Sophie et Julien. C'est Julien Bugier, c'est ça? Bugier, pardon. C'est Julien Bugier, le présentateur du 13h de TF1. Et, et la journaliste de France 2, c'est Lacaro, Anne-Sophie Lacaro. Et c'est ça, Anne-Sophie Lacaro. Et bah, big up à eux, hein. Bien le bisou. L'interview est censée durer combien de temps? 30 minutes. 30 minutes d'interview. Merci, Senor Elgato, pour ton raid, merci. Est-ce qu'il y aura des questions sur les violences policières? J'espère, j'espère. J'espère soit qu'une question lui sera posée, soit que le président de la République abordera de lui-même la question. En tout cas, quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron sait qu'il doit faire attention aux mots qu'il va utiliser. Là, on est sur un moment de forte tension. Il y a tout un public sur Twitch qui va écouter sa parole et il va falloir qu'il fasse attention aux mots qu'il utilise pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Ou au contraire, en rajouter si c'est son souhait, hein, c'est lui qui voit. Ce serait la bonne occasion de ressortir tous les dos des membres du gouvernement, faut pas rêver. Ouais. Il va annoncer un major de CSGO. Mais non, il a déjà annoncé ça. Vous vous souvenez pas pendant le The Event? Plutôt que de parler du climat, il nous a annoncé que la France allait accueillir un major de CSGO. Bon, on était content de l'apprendre. Hein. Bon, sur le moment, on voulait entendre parler de climat, mais c'est pas grave. Voilà. Un major de CSGO, C'est Kenny et Skyheart qui vont gagner, on le sait déjà, voilà. est-ce qu'il va annoncer un nouveau confinement? Non. Non, 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 non. Ah, un état d'urgence? Ah putain, est-ce qu'on aura un état d'urgence à Paris? C'est possible. C'est possible. Si on continue à avoir des manifestations dans les rues le soir, etc., il n'est pas impossible. Alors hier, il y a eu un grand rassemblement à République. En quel honneur? Bah, l'état d'urgence, je vous rappelle qu'historiquement, avant de devenir un truc sanitaire, avec le Covid, l'état d'urgence, c'est un truc sécuritaire. Hein. L'état d'urgence, typiquement, c'est un truc qui sert à être déclenché lorsqu'il y a un besoin de maintien de l'ordre particulier. Bon, est-ce que c'est à Macron de l'annoncer aux 13h? Je pense pas. Je pense que si état d'urgence il y a, ce sera annoncé par le ministre de l'Intérieur. Ça renforcerait la division casseurs et manifs légitimes. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a intérêt à renvoyer les manifestants aux casseurs, qui est une manière de diaboliser les manifestations. Sous-entendu, ne participez pas à ça. Regardez les casseurs, le désordre, je suis le garant du maintien de l'ordre, etc. etc. Pour tout un électorat, c'est quelque chose qui compte pour beaucoup. Ceci étant, on verra les conditions dans lesquelles se passe la manifestation demain, parce que demain, c'est une manifestation à l'appel de l'intersyndicale, et on a vu que les trois précédentes journées nationales de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale ont été massives, avec plus d'un million de manifestants dans les rues, c'est quand même énorme, et particulièrement, ça s'est assez bien déroulé du point de vue de la sécurité. Donc, c'est difficile de renvoyer tous les manifestants aux casseurs, mais bon, on verra. On est d'accord qu'il y a 0,0000% de chances que les journalistes soient contre Macron. Tu sais, un journaliste, c'est pas là pour être pour ou pour être contre. Un journaliste, c'est là pour poser des questions, dans le but de faire parler son invité, de manière à ce qu'il s'exprime, à ce qu'il réponde aux questions, au service du public et de son information. Donc il n'y a pas de... C'est ça un journaliste, hein. C'est à ça que ça sert. Après, je vous rappelle que les journalistes ne sont responsables que des questions qu'ils posent, pas des réponses qu'ils obtiennent. Donc c'est pas la peine de s'en prendre aux journalistes si vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République. Hein. Les journalistes, ils posent des questions au bonhomme. Le bonhomme, il apporte ses réponses. Après, ils peuvent le relancer. Ils peuvent lui apporter la contradiction. Mais la contradiction, c'est pas pour le plaisir du sport de la contradiction. C'est dans le but de lui permettre d'affiner sa réponse. Les questions sont trop bateaux. Mais je sais pas, on les a pas encore entendues. On verra. Les questions posées sont spontanées ou validées par avance? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, et encore une fois, là franchement, il n'y a pas de mystère. Hein. On les connaît les questions. Hein. C'est pas... Tu es sur le site du Monde. Ouais, j'ai vu, merci Le Monde. Merci Le Monde. Thank you the world. Zawarudo. Merci Le Monde. J'ai vu que si j'étais dans la chronique de Cyril Lacarrière sur France Inter ce matin, merci Cyril. Sur France Info aussi, ils en ont parlé. Merci. J'ai fait la une du Time. Je suis dans Gala. Non, c'est pas vrai. pour quelle raison est-ce qu'il parle aux 13h? Et non à une heure de grande écoute comme le 20h. Déjà parce qu'il y a une grande écoute au 13h. Hein. Le 13h reste un rendez-vous d'infos important. Et puis par ailleurs, j'en sais rien. Je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas dramatiser la situation en prenant la parole au 20h. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il m'envoie des textos ? Hop là. Hop là. Hop, attendez, bougez pas. J'appelle France 2. Oui, allô? Oui, donc tout va bien pour moi, c'est bon, j'ai pas besoin du flux. C'est cool. Merci. Au revoir. Pardon, c'est les équipes techniques de France 2, j'ai pas besoin du flux. Tout va bien, je gère, je s'occupe de tout. Tac, 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 tac. À ce rythme de fame, tu devrais pas tarder à prendre une sauce sur Twitter. Oh, c'est quotidien, hein. Pas à l'émission de Canal+, hein. Moi c'est tous les jours la sauce, mais c'est normal. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, c'est sur TMC quotidien. Pardon, putain. Quand je vous dis que j'y connais rien à la télé, quotidien, c'est sur TMC. C'est une autre chaîne. C'est quoi ton background, Jeannot? Moi, je suis juriste, publiciste, constitutionnaliste, comparatiste. Et après, j'ai bossé en politique pendant plusieurs années. Voilà. Et après, je suis devenu influenceur sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Red Shadow Legend? Qu'est-ce que je voulais... Attends. Penses-tu qu'une 6ème République pourrait être un pas pour renouer la confiance des Français vers la politique? Peut-être. Ça dépend de la 6ème République, j'en sais rien. Hein. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Ça dépend de ce que tu mets dedans, c'est pas automatique. Hein. Mais sache que Emmanuel Macron a en tête la réforme des institutions comme nouvelle étape de son quinquennat. C'est quoi cette histoire de réforme des institutions? Emmanuel Macron avait souhaité réformer les institutions au cours de son premier quinquennat. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais il avait déposé une proposition de loi constitutionnelle avec tout un tas de modifications des institutions pour changer le mode d'élection des députés, réduire le nombre de députés et de sénateurs, changer un certain nombre de choses dans la Constitution. Bon, il se trouve que cette réforme n'a pas pu aboutir à son terme à cause de Alexandre Benalla, si vous vous en souvenez, 2018, l'été 2018, l'affaire Benalla, etc. Donc la réforme des institutions est restée entre parenthèses depuis cette date. Et à l'occasion de son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron souhaite remettre sur le tapis une réforme des institutions. Et il a commencé à consulter, à faire un travail autour de ça. Donc pour l'instant, on n'a pas de documents, on n'a pas de texte, on n'a pas de proposition formelle. On a des informations, on a simplement des informations de la part de la part de journalistes informés sur le fait qu'Emmanuel Macron souhaite prendre une initiative en faveur d'une réforme des institutions. Voilà. Donc évidemment, pensez à follow la chaîne parce qu'on va en parler. Pourquoi faire la réforme en début de mandat au risque de bloquer le reste de ses projets pour la suite de son mandat plutôt qu'à la fin de son mandat? Ça, c'est la question du rythme des réformes, c'est toujours compliqué. T'as toujours plus d'initiatives politiques en début de mandat qu'en fin de mandat. Donc c'est normal que les présidents de la République, quels qu'ils soient, ils fassent les réformes les plus importantes au début du quinquennat plutôt qu'à la fin. C'est assez habituel, hein, pour le coup, c'est pas propre à Macron. Est-ce que tu auras un argument pour justifier la réduction du nombre de parlementaires? Ce que défend le gouvernement, en tout cas ce que défendent les gens qui promeuvent la réduction du nombre de parlementaires, c'est plus d'efficacité dans le travail du Parlement. C'est peut-être une exagération, mais la loi martiale est-elle une possibilité? Non, il y a très très peu de chances. Non, la France a déjà connu des poussées de manifestations, y compris de violences, etc. Il n'y a pas besoin d'une loi martiale. La loi martiale, je rappelle que c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire. La loi martiale, c'est quand un pays est en guerre. Là, on n'est pas, y a pas de guerre. Il y a un conflit social, il y a des manifestations, il y a des grèves, il y a tout un tas de trucs, mais on n'est pas du tout dans. On n'est pas du tout dans un contexte de loi martiale. Est-ce qu'il y a encore des recours possibles pour ou contre, pour contrer ou retirer la réforme? Non. Non, il n'y a plus de recours possible. Il y a le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer dans les jours qui viennent, d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais non, il n'y a pas de recours, y a pas de recours contre la réforme des retraites en l'état actuel des choses. Institutionnellement, la réforme est considérée comme ayant été adoptée par le Parlement. Elle va passer sous le contrôle du Conseil constitutionnel et à l'issue de ça, elle sera promulguée par le président de la République. Le référendum d'initiative partagée n'est pas une méthode pour contrer la réforme des retraites actuelle. Le référendum d'initiative partagée ne peut pas empêcher la réforme d'entrer en vigueur. Elle peut éventuellement obtenir son abrogation par un référendum si le vote est favorable, mais ce sera dans 9 mois, 1 an. Donc. Bonjour monsieur, c'est Choachin qui m'a conseillé votre stream. Ah, c'est parce qu'il a du goût, Choachin. C'est un homme de goût. En plus d'être un homme de skill. Penses-tu qu'il va abroger l'heure d'été? On est d'accord que l'armée n'a aucun moyen de gérer des manifestations car ils n'ont absolument pas les équipements nécessaires. Bien sûr, évidemment. L'armée ne fait pas de maintien de l'ordre. L'armée ne sait pas faire de maintien de l'ordre. On a même inventé les CRS, les gendarmes mobiles, etc., pour justement que ce ne soit plus à l'armée de gérer le maintien de l'ordre. Avant qu'on invente les CRS, c'était l'armée qui gérait les manifestations et ça se passait très très mal. Très 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 mal. Donc c'est justement pour que ce soit pas à l'armée de gérer le maintien de l'ordre qu'on a inventé des corps de police spécialisés dans le maintien de l'ordre. Non, l'armée ne sait pas faire du maintien de l'ordre, c'est pas leur métier du tout. D'ailleurs, les militaires, les experts, etc., qui en parlent à chaque fois le rappellent. Ils disent c'est pas notre job. À chaque fois qu'il y a des politiques qui disent ouais, faut envoyer l'armée. À chaque fois, l'armée répond mais non, non, c'est pas notre métier. Nous, on sait faire du renseignement militaire, on sait tirer des missiles, on sait faire des actions coordonnées entre des entre des forces de l'OTAN. Ça, on sait faire. Gérer des foules, non, c'est pas notre métier. Non, non. Sentinelle. Ah, Sentinelle, c'est une opération de contre-terrorisme. C'est de la dissuasion contre le terrorisme. C'est quand même c'est autre chose. Pourquoi passer de la 5e à une 6e République est si tabou? Je te rassure, c'est absolument pas tabou. La 6e République, on en parle depuis que la 5e République est née. Il n'y a aucun tabou là-dessus, tout le monde en parle. C'est dans les propositions des programmes présidentiels de plusieurs candidats depuis oula, pas mal d'élections. Est-ce qu'une réforme des institutions ne devient pas urgente même pour Macron? Si, moi je trouve aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que là, Emmanuel Macron a besoin de reprendre la main. Alors, c'est charge à lui de voir comment est-ce qu'il veut mener cette réforme des institutions, mais je pense qu'il a besoin effectivement de sortir de cette crise démocratique et de cette crise politique en constatant que la Ve République ne fonctionne plus. Enfin, là, je suis en train de donner mon opinion parce que moi j'ai l'impression que ça me pète au visage et que c'est évident que la Ve République ne fonctionne plus, qu'on a atteint le summum de l'absurdité du fonctionnement, mais ça, c'est mon point de vue. Il y a des défenseurs de la Ve République qui disent qu'au contraire, ça fonctionne très bien, la preuve. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais bon. Donc oui, moi je pense qu'il faudrait changer de méthode. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, alors en plus, c'est un peu le problème avec Macron, c'est que ça dépend à qui il parle et à quel moment, mais ça lui arrive à plusieurs reprises d'aller dans cette direction-là. Emmanuel Macron, au cours de la campagne, avait parlé d'une nouvelle méthode. Il avait parlé d'un retour du dialogue, de la participation citoyenne, etc. Enfin, il a mis en place les conventions citoyennes, etc. Il y a des initiatives qui sont prises, il y a des innovations, il y avait le grand débat national et tout, avec toutes les limites qu'avaient ces exercices, contestables à plein d'égards, etc. Ça ouvrait quand même des pistes de réflexion sur de nouvelles méthodes de proposition de loi, d'association de la société civile, de travail, etc. Il y a des pistes qui ont été ouvertes, il y a des réflexions qui sont en cours, il y a plein de gens qui proposent plein de trucs. Emmanuel Macron, quand on l'écoute de temps en temps, il dit des trucs qui vont dans le sens de bon bah banco. Tu passes chez Samuel ce vendredi? Ouais, vendredi soir à 20h, je serai dans l'émission de Samuel Etienne, l'hebdo Etienne. Soyez là. Sur Twitch, évidemment. Ça changerait quoi de changer de république? En fait, ça changerait l'organisation de nos institutions. C'est-à-dire que ça changerait les pouvoirs d'un président de la République, ça changerait les pouvoirs du Parlement, ça modifierait le mode d'élection. C'est voilà, c'est tout ça ce qu'on appelle changer de république, changer de régime politique. Donc je ne sais pas dans quelle direction on irait, parce qu'il y a plein de manières de changer de république. Hein. On peut avoir une république encore plus présidentielle et autoritaire, on peut avoir une république beaucoup plus parlementaire, on peut avoir plein de méthodes, on peut avoir des systèmes hybrides, on peut imaginer plein de trucs. Mais c'est ça qu'on appelle changer de république, ça veut dire passer à un nouveau régime. Alors il se trouve que dans l'histoire de France, on est plus souvent rentré en république après une période de monarchie ou d'empire. Donc c'est pour ça en général qu'on disait nouvelle république, la première république, la deuxième, la troisième, etc. C'était souvent après une période de restauration de de la monarchie. Mais entre la quatrième et la cinquième république, on est passé d'une république à une autre république. Donc on a corrigé les défauts de la 4ème République pour créer la 5ème République. Bon, bah, on pourrait tout aussi bien corriger les défauts de la 5ème République pour passer à une 6ème. Encore eût-il fallu que nous nous mettions d'accord sur les défauts et sur les manières de les résoudre. Et c'est ça la beauté de la politique, et c'est ça qui rend nécessaire, je pense, l'abonnement à ma chaîne Twitch. Mais bon, ça c'est une manière de voir les choses, c'est vous qui voyez. T'as vu ce qui est arrivé à Rémi Buzyn pendant son live? Oui, j'ai vu, courage Rémi, courage, des gros bisous à Rémi Buzyn. S.O. Rémi, le GOAT. Courage Rémi, Rémi Buzyn, prends soin de toi. Force à toi mon bro, j'ai hâte de le voir vendredi, j'espère qu'il sera en bon état. Il s'est passé quoi? Et Rémi Buzyn a été brutalisé par des policiers. Pour revenir sur le débat sur les militaires, les gendarmes sont des militaires, non. Oui, statutairement, les gendarmes sont des militaires, mais ils sont placés fonctionnellement sous la coupe du pouvoir civil du ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne les missions dans les gendarmeries et du maintien de l'ordre avec les gendarmes mobiles. Donc effectivement, c'est un corps d'armée spécialisé dans le maintien de l'ordre, mais c'est une exception. À quoi ressemble ton émission? Laquelle? Backseat? C'est génial, tu devrais regarder, c'est exceptionnel. C'est du sucre pour les yeux et les oreilles. Avec les comparutions médiatiques, il y a toujours un commissaire de civil qui encadre les gendarmes pendant les opérations de maintien de l'ordre. Avec les CI? Hein? Le journal télévisé commence, mais l'interview du président de la République commence à 13h pile. Les compagnies d'intervention, pas les comparutions immédiates. Ah, les compagnies d'intervention, oui. T'as les droits pour regarder l'interview de Macron. Ouais, je vais vous la diffuser, vous inquiétez pas. On va regarder ensemble l'interview d'Emmanuel Macron qui commence dans 10 minutes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va suivre ensemble donc la prise de parole très attendue du président de la République à l'issue de la crise politique qui a été ouverte par la réforme des retraites et son aggravation par le 49-3. Je rappelle, pour ceux qui ont raté les dernières news, que lundi, Les motions de censure qui ont été proposées par les opposants à Emmanuel Macron n'ont pas été adoptées à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites est donc considérée comme étant adoptée par le Parlement. Elle va donc maintenant passer devant le Conseil constitutionnel. Mais l'engagement du 49-3 a déclenché une crise sociale, a aggravé la crise sociale qui avait déjà été ouverte par l'engagement de la réforme des retraites. Nous avons des manifestations quasi quotidiennes dans les grandes villes et il y a demain, je le rappelle, une grande journée de grève et de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale. Donc, le président de la République a décidé de prendre la parole et de s'exprimer aujourd'hui en direct sur la chaîne Twitch de Jean Mercier. Et comme je pense que c'est important, j'ai cédé les droits de diffusion aux chaînes de télévision qui me l'ont demandé pour une large information du public. Combien de temps l'allocution? Ce n'est pas une allocution, c'est une interview. C'est une interview qui va durer 30 minutes. N'oublie pas de strike les rediffs. Ah bah ça. L'interview sera en direct ou bien en différé? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je crois que c'est en direct. Je crois que c'est en direct. Je crois que c'est en direct. Donc, à quoi faut-il s'attendre dans cette interview d'Emmanuel Macron? Pas grand-chose. Puisque l'on sait déjà qu'Emmanuel Macron exclut d'avoir recours à la dissolution de l'Assemblée nationale, au référendum, au remaniement du gouvernement, en tout cas pour l'instant. On verra, on verra, on verra, on verra, on verra. L'interview est tournée, en tout cas sachez-le, au Palais de l'Élysée, où les équipes de TF1 et France 2 s'occupent de la rediffusion, de la diffusion, de la captation, etc. C'est quoi le but en donnant cette interview? Bah, c'est d'avoir de l'information, d'aller à la source de l'information, le président de la République lui-même. En tout cas, le président de la République, c'est quoi son but à lui avec cette interview? C'est de reprendre l'initiative politique en cette période de crise sociale et politique. Il a besoin de reprendre l'initiative, il a besoin de jouer son rôle de garant des institutions, etc., d'appeler au calme, machin. On verra bien les mots qu'il utilise. Pourquoi le 13h et pas le 20h? Parce qu'à 20h, il sera avec le roi d'Angleterre déjà. Non, et puis parce que le 13h, c'est un journal télévisé un petit peu différent. On ne s'adresse pas tout à fait au même public. Donc voilà. Non, Versailles, c'est le 27. Ah, c'est la semaine prochaine, Versailles? Je me demandais si c'était aujourd'hui ou la semaine prochaine, parce que j'ai vu rapidement passer des articles. C'est la semaine prochaine, d'accord. À 20h, il regarde Plus belle la vie. À 13h, sur France Info, ils expliquaient que le 13h était plus taillé sur les questions de pouvoir d'achat. Oui, alors effectivement, le journal télévisé de 13h est un journal historiquement plutôt axé sur la proximité. Donc on parle beaucoup des régions, on parle beaucoup de la météo, on parle beaucoup de la vie quotidienne des gens. Donc voilà. Merci Lady Sunday! Comment tu vas? Merci pour ton raid, bienvenue à toi et bienvenue à tes viewers. On va regarder ensemble l'interview d'Emmanuel Macron qui va commencer dans 5 minutes. Interview donc en direct sur Twitch, tournée depuis les locaux de l'Élysée. Emmanuel Macron donc va reprendre l'initiative, on va voir ce qu'il va dire. Ce serait pas pour parler aux retraités. Bah, ce qu'expliquaient les communicants de l'Élysée sur le choix du 13h, c'est que c'était selon eux une manière de s'adresser à la France qui travaille. Bon, de toute façon, on s'en fout vu que c'est une émission. Enfin, en fait, en réalité, de toutes les manières, l'interview du président, elle va être rediffusée, décryptée, analysée. Sur Twitch demain sur le plateau de Backseat, ce soir dans le JT de 20h, enfin bref, que vous soyez là en direct pour l'interview ou pas. On bosse à 13h. Il y a des gens qui ont dit que c'était la pause déj. Le terme choix du territoire, c'est pas malvenu selon toi? Je sais pas quelle analyse d'Audimat ils utilisent pour dire que le 13h, c'est. Enfin, en tout cas, c'est vrai que le journal du 13h est plus axé territoire. Alors après, est-ce que ça touche plus les territoires que le journal de 20h? Je ne sais pas. La France du pot-au-feu. Oui, c'est ça. C'est ça. Sais pas, vous avez mangé quoi à midi là? Parce qu'apparemment c'est la pause déj pour toute la France. Qui regarde vraiment le JT sur ce live? Bah, peu importe, puisqu'on regarde ce live. Des pâtes, des raviolis, brocolis, ramen, pizza, steak pâtes, couscous, bolo, galettes, pizza maison, jambon beurre, tacos, poulet en papillote, dorade, crêpes, porc caramel, hamburger, sandwich du Crous, riz d'Inde, café, burger, rien, salade grecque, petit curry, crêpes. Meublage, t'as vu, je suis en train de meubler, hein. C'est le stream Ikea, on attend le début de l'interview. Pâte au pesto, pâte, McDo, mandarine, coquillette, lentilles, nouilles. Bah, c'est bien. Putain, ça me donne faim tout ça. J'aurais pas dû vous poser la question, moi j'ai pas bouffé. Bon, ça va commencer en tout cas dans 2 minutes. Chers amis, on va suivre ensemble cette actualité. Je serai là après l'interview pour débriefer avec vous cette émission. On attend les mots du président de la République. On va voir quels mots il décide d'utiliser pour s'adresser au mouvement social. Est-ce qu'il va annoncer des choses sur une reprise en main du calendrier parlementaire? Je ne pense pas. D'après les informations bien informées de plusieurs journalistes, on a appris ce matin que le président souhaitait se donner un peu de temps. C'est pas que des journalistes, il l'a aussi dit hier devant les parlementaires de la majorité qu'il a réunis à l'Élysée hier soir. Donc on verra ce que va dire Emmanuel Macron. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à un retrait de la réforme. Il ne faut pas s'attendre à une dissolution de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas s'attendre à un référendum. Il ne faut pas s'attendre à un remaniement du gouvernement. En tout cas, pas tout de suite. Tu vas montrer le JT. Ouais, je vais le montrer. T'inquiète, ça arrive. En gros, on s'attend à rien. On s'attend à voir. Enfin, moi, j'attends de voir comment le président de la République va parler de la situation actuelle, les mots qu'il va utiliser pour caractériser la crise que nous traversons, les mots qu'il va utiliser ou qu'il va essayer d'utiliser pour appeler au calme les manifestants, les mots qu'il va utiliser pour caractériser les violences policières et le maintien de l'ordre que l'on voit depuis quelques jours particulièrement violents sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce qu'il va réutiliser le mot foule pour parler des manifestants? Est-ce qu'il va faire une différence entre les casseurs et les manifestants? Est-ce qu'il va parler de l'instabilité parlementaire? Est-ce qu'il va renouveler sa confiance à Elisabeth Borne, à Olivier Dussopt? Est-ce qu'il va tendre la main aux républicains? Est-ce qu'il va enfoncer les républicains qui n'ont pas soutenu sa réforme alors qu'il l'avait négociée avec lui? Donc voilà quoi. On s'attend un peu à tout ça. Allez, c'est parti pour l'interview du chef de l'État. Let's go. C'est bon, on est prêt.
Bonjour, Monsieur
Bonjour.
le Président.
Bonjour.
Merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour, Julien.
Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. Vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue.
Ouais.
C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49-3 et depuis que cette réforme des retraites a été adoptée par le Parlement. Elle est très contestée dans la rue. Première question donc, est-ce que ce texte entrera en application, comme prévu, au 1er septembre?
Bonjour et bienvenue. Je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été ensuite porté par le gouvernement qui l'a modifié après ses concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 10.49.3 et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Et c'est à l'issue de sa décision que j'aurai à promulguer un texte. Et donc, qui permettra de faire évoluer les choses pour notre
vous créez. Tenez-vous à cette date du 1er septembre. Tenez-vous à cette date.
Ah, je pense que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que, d'ici à la fin de l'année, pour près de 2 millions de nos compatriotes, 1 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée. Environ 600 euros par an en moyenne.
1er septembre, c'est la date d'entrée en vigueur de la réforme qui est souhaitée.
Ça décalait l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil.
Alors, on va parler de la crise sociale dans notre pays, qui est forte. On va parler de la crise politique, évidemment, à l'Assemblée nationale et de ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus, qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Vous avez dit « la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus ».
Alors,
est-ce à dire, à vos yeux, que le mécontentement qui s'exprime dans les rues, aujourd'hui, les manifestants, sont illégitimes ?
Non, pas du tout.
Très bonne question, Julien Bugier.
Cela, parce que j'ai dit des choses.
Alors, il faut clarifier. Apparemment, ils regrettent. Alors,
subi des agressions inacceptables depuis ces derniers jours. Et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité. Nous sommes une grande nation et un vieux peuple. Ils se dotent de responsables qui ont une légitimité politique. Président de la République, des parlementaires. Ils sont élus par lui.
Il n'y a pas de pub.
Il y a des légitimités qui...
Pour les abonnés.
Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, de pétition. Il y a une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le Parlement, a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une partie de ces colères. On y reviendra.
Vous conviendrez...
À côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règles absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République.
Mais là, vous convenez,
la démocratie,
convenez, Monsieur le Président,
c'est un ordre.
Ce ne sont pas des propos qui sont à même d'apaiser ce qui se passe
aujourd'hui dans les rues. Ce sont des propos qui clarifient.
Sur la foule.
Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire... On respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions.
Mais à côté de ça, il y a des millions de Français qui manifestent.
Oui, mais ceci, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre.
C'est cela, parce qu'avec ces propos, vous faites référence au débordement, mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain, 9e journée d'action dans la rue? C'est quoi? C'est pas la peine d'y aller? Il n'y a plus rien à négocier?
Non, d'abord...
C'est la fin de partie?
Alors... Je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle...
Oui, c'est ce que je vous disais, il oppose bien les manifestants sauvages avec les manifestants de demain.
Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active... Il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? On rentre de plus en plus tard dans la vie professionnelle. On vit, et c'est une chance, de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous, par le sens des responsabilités. Et c'est l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation démographique qui est la nôtre? On aurait pu dire on baisse les pensions. Mm-hmm. La réponse est non. Nos retraités n'ont pas trop de pouvoir d'achat. On ne peut pas baisser leurs pensions. On va même relever celles des plus modestes. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations.
Ça, c'est l'argumentaire depuis le début de la réforme, où le gouvernement et Emmanuel Macron estiment que la réforme est nécessaire et que c'est la seule qui peut être menée.
Non.
Et de mettre les entreprises à contribution, alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le financement.
Non, parce que je vais venir, c'est pas comme ça que marchent les retraites. Les retraites, c'est des cotisations des actifs pour les retraités. La troisième solution, c'est de dire au fond, j'acte que mon système de retraite a un déséquilibre. Et c'est le budget de l'État qui va le financer par ailleurs. Et alors comment on fait quand c'est le budget de l'État? Soit on augmente les impôts. Nous sommes l'un des pays occidentaux qui a les impôts les plus hauts. Moi, je crois dans la réindustrialisation du pays, j'espère qu'on y reviendra, on l'a défendu, on est en train de gagner cette bataille, c'est pas pour faire l'inverse. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est aux dépens de notre priorité. On doit investir dans nos services publics, notre école, notre santé. On ne peut pas prendre cet argent pour le mettre sur les retraites. Et alors la formule magique, qui est implicitement le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est le déficit. Mais qu'est-ce que c'est le déficit? Ça veut dire, de fait, que vous choisissez de faire payer vos enfants parce qu'aujourd'hui, vous refusez de décider avec clarté et courage.
Monsieur le Président,
regardez, vos collègues du Parisien avaient fait cette petite infographie. J'ai arrivé de la convoquer. Oui. Enfin, nous sommes le pays d'Europe qui, avec la Suède, qui a un autre système et un autre modèle, mais nous en sommes ensemble. Regardez, tous les autres sont entre 65 et 65.
On entend vos arguments, monsieur le Président, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été compris?
Mais parce qu'il y a une volonté, d'abord, parce que je vous le dis très sincèrement.
Monsieur le Président, ces graphiques, on les montre depuis le début. Oui. La pédagogie, vous l'avez fait depuis le début.
On n'a pas forcément envie d'entendre la réalité, mais je vous dis, cette réforme, ça n'est pas un luxe, ça n'est pas un plaisir, c'est une nécessité pour le pays. Ensuite...
Vous pensez l'avoir mal expliqué, monsieur le Président?
Non, je pense simplement qu'il y a aussi une volonté de passer à autre chose chez certains et de ne pas partager cette contrainte.
Mais peut-on raison contre 70% des Français?
Écoutez,
d'abord, juste soit votre conviction, monsieur le Président. Mais peut-on avoir raison seul contre les autres?
Je pense qu'on peut prendre ses responsabilités dans un système démocratique où les élections ne sont pas très tardives, ni celles des parlementaires, ni celles du Président, et où, sur les fondamentaux d'une réforme, après, il faut la compléter, il faut entendre ce qui se dit, je vais y revenir. Et je pense que beaucoup de choses qui se sont dites ne sont pas sur les retraites. Et y compris les colères qui s'expriment aujourd'hui. Nos pêcheurs, par exemple, s'expriment à Rennes. Ce n'est pas les retraites le cœur de leur problème. C'est des réglementations ou des jugements qui leur tombent dessus. Bon,
et c'est spécifique sur le Brexit, effectivement, les pêcheurs dans les Côtes d'Armor.
Et je veux y revenir et pouvoir en parler.
On y viendra.
Mais notre système aujourd'hui, nous devons le réformer. Et donc je le fais en responsabilité, par le sens de l'intérêt général. Il y a une partie des oppositions qui ont eu le sens des responsabilités. Et je vous le dis ici aussi, et il faut les respecter et les associer.
Alors, il parle de qui ?
La majorité au Sénat n'est pas une majorité qui soutient normalement...
Il parle des Républicains. Alors, est-ce qu'il va diviser les Républicains ?
Ce texte, elle l'a modifié, mais enfin, elle a adopté quelque chose qui va dans le même sens.
Alors,
plusieurs élus de l'opposition venant de la droite républicaine ont décidé de voter ce texte et de ne pas voter la motion de censure. Il faut les respecter, c'est les associer aussi. Mm-hmm. Ils ont le sens des responsabilités. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où, historiquement, les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme.
Vous n'avez commis aucune erreur.
De ne pas réussir à convaincre.
Je poserai la question demain à Laurent Berger, si effectivement il n'a rien proposé.
À vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça... C'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid, où pour beaucoup de nos compatriotes, mais aussi des forces politiques, syndicales, je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime...
Laurent Berger.
...était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas été suivi par son propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Il nous aurait proposé un compromis. Alors, d'ailleurs, le gouvernement a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Mais il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ses concertations. Il a été fait avec le Parlement. Mais nous devons avancer. Alors, parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous le dis... Je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne cherche pas à être réélu. Je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai.
Alors voilà pour la pédagogie et l'explication de texte. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue, est-ce que vous craignez un embrasement des mobilisations, un pourrissement de la situation? Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux Français qui sont inquiets aussi de cette situation et qui la subissent?
Bien sûr.
Les ordures qui s'amoncellent, les stations essence avec des queues considérables, les blocages.
Alors qu'est-ce qu'il va dire?
Je vous
sur le sujet. Est-ce qu'il va apaiser, est-ce qu'il va réussir ?
Contestation, et vous m'avez permis de le clarifier à l'instant. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. Et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité de l'ensemble des syndicats qui, je l'ai dit, n'ont pas proposé de compromis, mais ont été contre, avec clarté, je le respecte. Mais ça a été fait de manière calme, organisée, ils le feront demain, c'est normal. Bon. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux, ni les factions dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Ce que nous avons pu faire sur les ordures ménagères, par exemple, dans certaines grandes villes, ou sur les raffineries, à chaque fois qu'il faut le faire. Ça a commencé et ce sera fait pour qu'il n'y ait pas de blocage. Souvent, ce sont très peu de gens, d'ailleurs.
À quand un retour à la normale dans la vie des Français, un retour à l'ordre, même, disent certains. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement?
L'ordre républicain, c'est celui que je souhaite. Je prends un engagement pour ce qui dépend de moi. Je suis un peu stoïcien en la matière. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table. Mais
les Français commencent à se lasser. On l'entend dans nos reportages.
Mais ils ont raison.
Depuis le début de la semaine.
Et donc, je le dis, on ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, à l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors, ces contestations, d'abord, je veux ici rappeler qu'à chaque réforme des retraites, nous les avons, et parfois en nombre bien supérieur.
Oui.
Et
c'est un défi.
Dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant « je ne fais pas la réforme ». On serait dans une situation encore plus critique. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut le faire.
Oui.
Maintenant, dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé ? D'abord, un sentiment d'injustice. Et moi, que j'entends. Vous l'avez un peu évoqué en parlant des entreprises tout à l'heure. Ce sentiment d'injustice, c'est de dire, au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande. Cette réforme, il ne faut pas se tromper, on demande à nos compatriotes des efforts.
C'est nous qui allons travailler 2 ans de plus.
On leur demande des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc, il faut entendre ce besoin de justice. Moi, je l'entends. À au moins 2 égards. Quand on voit des entreprises qu'on a aidées et on continuera cette politique pour l'entrepreneuriat.
Sentiment d'injustice sur l'aide aux entreprises. Donc, Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a un sentiment d'injustice sur le fait que les entreprises sont aidées, mais pas les travailleurs.
Les entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions.
Ça, c'est important, ça.
Je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter.
Donc c'est une taxe sur les super-profits ?
Non, parce que cette taxation des super-profits, nous l'avons déjà fait pour les énergéticiens. C'est ce qu'on a construit au niveau européen. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de financer le bouclier face à l'augmentation de l'énergie. Et c'est ce qui fait que vous payez par mois une augmentation de 20 euros environ, entre 20 et 30 euros sur votre électricité et votre gaz, au lieu de 180 ou 200 euros. Ça, on l'a financé.
C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. La prochaine initiative de Macron, c'est clairement ça. C'est le partage de la valeur dans les entreprises.
Ils sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles. Il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés. Il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. La deuxième chose, c'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent « vous nous demandez des efforts ». Il y a des gens qui travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie. Eux, ils vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi. Les aider et les responsabiliser. Et ça, ce sera dans les réformes les plus
importantes. Il oppose les chômeurs et les allocataires du RSA ?
Droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former et les accompagner, régler parfois les problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, au moment même où on a des besoins.
C'est ce que vous avancez aujourd'hui pour remettre de l'apaisement, pour apaiser.
C'est les chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. À côté de ça, il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. Beaucoup de gens, à juste titre, j'écoutais dans l'agroalimentaire, en Bretagne, dans certains métiers encore postés, dans l'industrie, dans le centre de la France.
Pardon.
Les métiers aussi du soin, les éboueurs, les égouttiers. Bon, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé.
Alors, sur la pénibilité, du coup.
Mais si on est honnête avec nous-mêmes, ce n'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème. Le problème, il est à 55 ou 58 ans.
Alors, on fait quoi?
Et donc, le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement, comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Bah, celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras-le-corps. Parce que si on veut donner une réponse à cette colère légitime et une réponse efficace, moi, je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets. L'usure professionnelle, la reconversion de fin de carrière. Il y a beaucoup de métiers où, au fond, passer 50 ans, on doit reconvertir.
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre sur la table ces propositions?
On a commencé à le faire. Et d'ailleurs, les assises du travail n'ont pas attendu la réforme des retraites. Et beaucoup de choses qu'on a fait sur les carrières professionnelles se sont faites durant le premier quinquennat. Mais il faut continuer. Quand la colère s'exprime, il faut aussi l'entendre et accélérer. Donc, l'usure professionnelle...
Vous entendez qu'il utilise le mot usure parce qu'il ne veut pas utiliser le mot pénibilité.
Je suis en train de vous dire qu'on a commencé à faire les choses. Si j'étais là à vous dire on a tout bien fait, vous me diriez, vous êtes un drôle de type. Vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent. Et ça veut dire par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie... Elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. Et donc, je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles, et donc on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. La deuxième chose, c'est la progression de la carrière. Beaucoup de gens qui manifestent disent, il y en a qui ne bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail, et le système de droits et devoirs, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais ils nous disent aussi, au fond, le travail ne paye pas assez. Alors là aussi, je vais vous dire, on a fait beaucoup de choses.
Alors, augmentation des salaires ?
On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 euros au niveau du SMIC. Jamais les SMICards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat.
Je ne suis pas sûr que les manifestants ils manifestent contre les allocataires du RSA.
On a augmenté ces 18 derniers mois le SMIC en France de 9,5%, plus que l'inflation. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent nos compatriotes qui manifestent sur ce sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais du travail qui doit payer. Premièrement, moi je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux, dès qu'ils seront prêts à le faire. Là, ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous, pour qu'on ait dans toutes les branches qui sont en dessous du minimum légal pour leur salaire minimum. Parce que vous avez des tas de branches qui en fait continuent à payer les gens en dessous du SMIC légal. Mmh.
Là, vous nous parlez des partenaires sociaux. Avec quels partenaires politiques vous allez avancer sur ces sujets?
La main est tendue, toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes. Et donc, je leur dis, allons travailler pour maintenant très vite trouver une réponse dans tous ces métiers qui sont insuffisamment payés, qui sont souvent les métiers de première et deuxième ligne dont on a eu besoin pendant la période Covid, et qui continuent à avoir des salaires minimums dans leur branche qui sont inférieurs au minimum légal. Edouard. On doit accélérer, enclencher les choses. Deuxième élément, on doit travailler les carrières. Ce n'est pas une loi qui changera les carrières, parce qu'on n'est pas une économie administrée. Mais il faut remettre sur le terrain le dialogue social pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. Vous savez, on est l'un des pays où le salaire minimum est des plus élevés en Europe. Mais le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel il y a la moitié des gens, au-dessus duquel il y a l'autre moitié des... C'est l'un des plus proches du salaire minimum en Europe. Ce qui fait que les carrières sont écrasées dans notre pays. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a enlevé, comme vous le savez, des cotisations sociales, les impôts sur les heures supplémentaires. On essaie de... Mais il faut qu'on travaille les carrières dans notre pays pour permettre...
Même que ça a créé un déficit sur les retraites. Bon, enfin, c'est un autre sujet.
Bah, je vais voir un progrès. Soit je pourrais changer de secteur et avoir un métier qui ne me casse plus le dos... et prendre en compte nos mesures, soit au moins je serai mieux payé, j'aurai des tâches qui reconnaissent mieux les choses. Ça, c'est du dialogue social et c'est indispensable.
Est-ce que pour mener ces réformes, Monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne qui...
Alors attendez, je vais revenir sur le champ politique, je voudrais finir sur le fond, sur le travail. C'est un sujet essentiel. On a commencé les assises du travail, mais il faut le rendre plus concret. Donc moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets.
À quelle échéance?
Là, il faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les 3 semaines, un mois pour définir ces objets et la méthode et engager. Mais il ne faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussions concrètes où on est tous autour de la table.
Vous avez commencé à appeler les syndicats?
Ils vont manifester. Demain, je respecte cette manifestation.
Les syndicats qui ont demandé à rencontrer Emmanuel Macron la semaine dernière, qui a refusé de les rencontrer.
Il faut beaucoup de bienveillance et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit, nous, ce n'est pas la retraite le problème, on ne veut plus travailler du tout. Parce qu'il y a eu... Et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux. On a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc, tout s'est un peu déréglé, les référentiels. C'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité, parce que pendant plusieurs mois, on a payé pour pas travailler, pour protéger le pays, et on a trouvé d'autres équilibres. Et donc le rapport au travail n'est plus le même. Il faut le rebâtir et redonner aussi du sens au travail.
On vous entend sur les intentions, mais avec...
Donc voilà, ce n'est pas des intentions, ce sont des engagements.
Avec quelle
majorité,
avec quel gouvernement, avec quelle première ministre ? Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance ?
Oui, j'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement. C'est là aussi nos institutions. Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres, pour cette réforme, le fait que, pour qu'elle passe et ne laisser aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement.
Ah, elle peut pas, elle n'a pas la confiance du Parlement.
Fameux article. C'est la 100e fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative.
À 9 voix près.
Oui, mais vous savez, nous sommes en République à une voix près.
Mais peut-on gouverner donc, pendant 4 ans avec un gouvernement?
Je le crois, avec beaucoup de volonté.
Et donc, 9 voix près.
Mais parce que d'abord, ça montre une chose, même à un moment d'incandescence politique, il n'y a pas de majorité alternative. Ensuite...
Et donc Elisabeth Borne, pardon, je reviens sur la Première ministre,
oui.
Elle a votre confiance, est-ce qu'elle l'a durablement, pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois?
Alors, elle a ma confiance pour conduire cette... équipe gouvernementale, et ce que je lui ai demandé sur la base de ce que je viens de vous dire, et aussi du cap des priorités, on y reviendra je pense dans le cours de notre discussion, de bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement en lien avec le président de l'Assemblée et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que j'ai vu hier, pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible, parce que tout ne passe pas par la loi. Et donc, dans ce contexte, il faut agir au service de nos priorités, de nos compatriotes, le faire de manière très concrète avec les élus sur le terrain, avec les services de l'État, et tout ne passe pas par la loi, et on passe trop par la loi dans notre République, et ensuite de bâtir un programme de gouvernement.
Je rappelle que ce qui ne passe pas par la loi, ça passe par le gouvernement et par le pouvoir réglementaire.
Et dans ce contexte-là, le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra.
Vers les Républicains alors ou pas ?
Des hommes de bonne volonté qui, de droite...
Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de tendre la main clairement à Éric Ciotti ?
Prêt sur les priorités que j'ai fixées, que je vais vous rappeler, et le programme de gouvernement que la Première ministre va travailler, à avancer avec elle. Peut-être au texte par texte, je ne suis pas en train de dire qu'on peut bâtir aujourd'hui des accords de gouvernement et de coalition. On ne l'a pas fait au début du quinquennat, ce n'est pas notre tradition politique.
Édouard Philippe le demande.
Mais par désaccord. Voilà. Oui, mais je suis obligé de regarder de manière très lucide que c'est ce qu'on a tenté au début du quinquennat et ce qui n'a pas été fait. Par contre, il faut avoir beaucoup d'estime et de respect pour de nombreux parlementaires qui sont venus en soutien de son texte. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti. C'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions.
Oui.
Mais il y a des individualités politiques, avec leurs convictions, qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Et donc je souhaite que la Première ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir, et j'espère qu'elle y parviendra.
Au-delà de cet assouplissement, sur la méthode, pas de changement de Première ministre, pas de remaniement, avez-vous dit il y a quelques jours, pas de dissolution, pas de référendum, vous ne changez rien à la méthode.
Alors la méthode, il avait promis de la changer déjà.
Ce que vous venez de dire, ça ce sont des faits politiques, je suis en train de vous dire... En responsabilité, nous devons avancer. On doit apaiser et on doit rebâtir un agenda parlementaire et des réformes en réengageant avec les syndicats et toutes les forces politiques qui sont prêtes à le faire. Et donc, c'est une méthode qu'on doit réengager. Mais à côté de ça, beaucoup de ces choses-là, nous le faisons depuis un an. C'est d'ailleurs pour ça que tant de textes ont pu passer, de décisions ont pu être prises, malgré une majorité relative à l'Assemblée. Des textes financiers, des textes sur l'énergie extrêmement importants pour notre souveraineté et nos compatriotes. Pour ça aussi qu'on a pu passer des réformes sur l'assurance chômage pour continuer de mener cette bataille essentielle du plein emploi. Donc oui, après, le changement, il est dans l'apaisement, la co-construction d'un agenda parlementaire avec l'ensemble des forces des deux chambres et je dirais, être plus engagé sur le terrain pour des réponses plus concrètes et plus rapides.
Il n'y a pas de réponse concrète sur la méthode.
Se passer, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas condamné à l'immobilisme. Il reste 4 ans de mandat. On vient de voir que le plan eau a été reporté. On entend dire que la loi immigration
Non, mais si vous me demandez comment je compte faire les prochains mois, je vais vous le dire.
Est-ce que la loi immigration arrivera au Sénat la semaine prochaine, comme prévu ?
Alors, c'est justement ça.
Elle a été repoussée.
Décidé hier avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Nous allons réagencer les choses aussi et découper des textes plus courts. Donc, il y aura bien une loi immigration. Il y aura sans doute plusieurs textes immigration. Et ils arriveront dans les prochaines semaines. Maintenant, nous n'avons pas...
La loi immigration a été ajournée, on l'a appris hier soir.
À l'arrêt ou à l'immobilisme. Nous n'avons pas le droit. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Ce monde est inquiétant. On a un sentiment de déclassement parfois. Je l'entends celui-ci aussi. Quand on dit on n'a plus de paracétamol, nos services publics sont de plus en plus en difficulté. C'est le résultat.
Ce sont les mots utilisés par Édouard Philippe. L'immobilisme, c'est le... l'assurance du déclassement, a-t-il dit.
Il était à mes côtés hier matin avec l'ensemble des responsables de la majorité pour justement mener cette concertation pour engager tout le monde. On n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été élu en 2017 et aujourd'hui. Mais pourquoi en sommes-nous là ? Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire, ou de produire de moins en moins. Nous avons, entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, détruit 2 millions d'emplois industriels et continué à dépenser. Et donc nous avons habitué nos compatriotes à dire « tout va bien se passer, on a un modèle social formidable, vous aurez de plus en plus de droits ». Et on va de moins en moins produire. Ça ne marche pas. C'est un mensonge. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 2017 ? On mène cette bataille du plein emploi et de la réindustrialisation. C'est le cœur de la bataille, cette société du plein emploi. Et on est en train de la réussir collectivement. On est passé de 9% de chômage à 7% aujourd'hui. Les plus de 50 ans dont on parle ces dernières semaines, ils sont à 5% de taux de chômage. Le plus bas depuis plus de 15 ans. Et on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis des décennies. On a le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure. Et on réindustrialise. On ouvre plus d'usines qu'on en ferme, ce qui est une première depuis bien longtemps. On a créé plus des emplois industriels et on continue d'en créer. C'est le cœur de la bataille. Et donc ça suppose de faire quoi ? D'assumer les choix fiscaux qu'on a fait pour les entreprises. Si on veut continuer de réindustrialiser, il faut plus de travail et plus de capital. Bon, dans notre pays, sur notre sol. Réindustrialiser des terres qui ont tant souffert. Le Hauts-de-France que je connais bien, on va y faire un des bastions des batteries électriques pour notre pays et notre continent. L'Est de la France, où on va le faire sur l'hydrogène et sur l'énergie,
si vous avez
etc. Donc oui, on va continuer à avancer, pourquoi, à marche forcée.
Pourquoi ce
bip, à marche forcée.
Ces réussites, selon vous, l'emploi, la réindustrialisation, la baisse du,
pas selon moi, ce sont des chiffres,
du chômage, 7,2% le taux de chômage.
Exactement.
Effectivement. Pourquoi les Français ne le perçoivent pas ? Et pourquoi sont-ils en colère ?
D'abord, je pense qu'il faut toujours se méfier quand on dit les Français. Si les Français ne percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, ni une majorité relative il y a encore moins longtemps. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère. Ça veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas.
Est-ce qu'ils vont le renvoyer à sa phrase qu'il a prononcée en 2022 « Je sais ce que je dois aux personnes qui ne me soutiennent pas et qui ont voté pour moi ».
On engage le pays vers son avenir. Et donc, moi, je vais continuer d'avancer sur un cap qui est clair. Un, le plein emploi et la réindustrialisation. C'est la France de 2030. Nous devons redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, de production.
Sur ce point, pourquoi ne pas l'avoir fait avant la réforme des retraites.
Mais vous disiez vous-même. On le fait depuis 5 ans.
Vous disiez vous-même en 2019.
Pourquoi ça marche pas alors ?
Aux gens de travailler jusqu'à 64 ans. S'il y a 55 ans, ils ont déjà du mal à trouver du boulot.
Mais on a beaucoup repris ce passage.
Ben oui.
Je vais être clair avec vous parce que j'ai le sens justement de la démocratie et du mandat. Quand je m'exprime et que je dis ça en 2019, on a lancé les ordonnances travail que depuis 18 mois. Ça fait 6 ans maintenant qu'elles sont en œuvre avec les résultats que vous connaissez. Mmh. Je m'exprime dans une société qui est à plus de 8% de taux de chômage.
Les ordonnances travail, c'était ce qu'il avait...
C'est de créer un système universel.
Créé dès son élection en 2017.
Parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites et tous les experts disaient, il n'y a pas de problème. Après cette expression que tout le monde nous resserre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays ? Les gens vivaient dans quel monde ? On a eu le Covid. On a eu la guerre, on a eu l'inflation. La nation a dépensé des
milliards
d'euros pour protéger. Elle a donc construit une dette qu'on a investie dans le temps. Et nos comptes se sont dégradés. Au moment de la campagne de 2022, la situation est drastiquement différente. Nous avons commencé à gagner la bataille pour le plein emploi en baissant de 2 points le taux de chômage. Nous avons commencé à réindustrialiser. Et donc, ce à quoi je répondais, commence à avoir une réponse, parce qu'on a fait tout ce travail. Et surtout, tous les experts disent, vous avez un problème de votre système
et
de
donc,
retraite.
Avançons.
Donc oui, il faut pouvoir avancer, l'engager, c'est cohérent.
Effectivement, regardons
vers l'avenir. Le mandat que j'ai demandé en 2022 n'était pas celui de 2017, parce que le pays n'était pas le même.
Donc c'est pas la peine de me renvoyer à mes déclarations de 2017, les choses ont changé à cause du Covid.
Dans les mois qui viennent, si on essaye d'être concret, quelle sera la mesure emblématique?
Non mais moi j'ai jamais fait... Enfin, la société, ça marche pas avec une mesure emblématique.
Non.
C'est une cohérence.
Ça donne un cap.
Réindustrialisation plein emploi. La France de 2030, il faut gagner la bataille de l'industrie décarbonée. Ça sera la clé. Le plein emploi, et donc les textes que nous allons faire passer pour remettre au travail ceux qui sont le plus loin de l'emploi et réussir tout le volet travail qui va derrière.
Le climat.
Deuxième cap, l'ordre républicain. Mmh. 200 brigades de gendarmerie, pas besoin de loi pour faire ça, vont être ouvertes partout sur le territoire. Plus de juges, plus de greffiers, pour juger plus vite face à la petite délinquance, réengager. Et à côté de ça, une loi de programmation militaire qui va arriver, et là ça fait partie des priorités des prochains mois, pour nos armées et nous protéger. Ça c'est l'ordre républicain. Et puis la troisième priorité, c'est les progrès pour mieux vivre. L'école, la santé, l'écologie, c'est ça les trois priorités. L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de collèges et lycées.
C'est loin d'être le cas.
Voilà, ben c'est une priorité. La deuxième chose, qu'on réponde dans la ruralité et qu'on améliore, parce qu'on a des baisses d'effectifs, parfois il faut fermer, on continuera à devoir fermer des classes ou des établissements, mais qu'on améliore la réponse avec parfois les écoles, les classes multiniveaux, nos internats ruraux, qu'on réponde aux...
Il y a des négociations en cours au ministère de l'Éducation nationale sur le statut des enseignants, sur leur mission et sur leur rémunération.
Et les amener vers l'emploi. Enfin,
les négociations ont un peu échoué.
Il y a beaucoup de chantiers parce qu'on a des immenses ambitions. Ça, c'est l'école. La santé, pour cette année, donner un médecin traitant à nos compatriotes, ils sont 600 000, qui sont
d'ici
en infection
à la fin de l'année,
longue
d'ici
durée.
À la fin 2023.
C'est le cœur de la convention médicale de ce que le ministre prépare, qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont dans des déserts médicaux. Ils sont 600 000 qui sont en infection longue durée ou âgés.
Oui.
Et enclencher la réforme qu'on a lancée sur l'hôpital pour les conditions de travail, pour réengager et les déserts médicaux. Et l'écologie, dès les prochaines semaines, le plan eau, nous aurons besoin d'avoir, comme on l'a réussi tous ensemble à gagner la bataille pour la sobriété énergétique, on doit gagner la bataille pour la sobriété en matière d'eau. Et donc tous faire une petite part d'effort pour préserver notre eau, mieux réutiliser l'eau de nos réseaux comme l'eau de pluie, changer les usages. L'eau, la forêt, les océans, les transports, le logement, c'est tout ça l'écologie. C'est des vies concrètes, mais il faut accompagner pour une transition juste et durable. Voilà le cap. Le plein emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain et mieux vivre, les progrès avec l'école, la santé et l'écologie.
Un mot plus personnel pour conclure peut-être, Monsieur le Président. Vous avez été élu en 2017 et puis l'an dernier en 2022 avec la promesse d'être le président de tous les Français et d'être un rassembleur. Je crois même que l'un de vos slogans lors de la dernière élection, c'était « Nous tous ».
Oui.
Aujourd'hui, le pays paraît plus fracturé que jamais. On en a parlé, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu la manière de comprendre et de parler aux Français?
Non, je veux vous dire, la réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire. On n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Je dis pas qu'on est beaucoup aidé.
Vous dites à part vous, les autres proposeraient.
Bah, non, mais c'est la réalité. C'était retirer la réforme. Ils ont... Bon. Donc j'assume ce moment. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres. Et je pense que ce qu'on a fait quand même ces derniers mois avec le Conseil national de la Refondation, un engagement avec les territoires, c'est ce que je veux continuer. Moi, je vois une vitalité quand même sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir pour avoir une réponse concrète, pour l'école, pour la santé. Je vois des élus locaux formidables d'engagement.
Et pour répondre à ma question, vous n'avez pas de regrets?
Je vous le dis, si j'en avais un, c'est de ne pas réussir à avoir convaincu sur la nécessité de cette réforme, qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je ne vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire.
Oh, le zoom.
Il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer. Mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. Ce n'est pas des lois, tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif, parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Et quand on parle d'école, d'industrie, de santé, de formation, d'écologie, quelques jours après la sortie du 6e rapport du GIEC. On a tous une part à donner. C'est ça, ce avec vous. Et donc, on va continuer les conseils de la Refondation. On va continuer le travail sur le terrain. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile. Il arrive là, il faut le faire. Mais ça n'emporte pas tout.
Merci, monsieur le Président.
Voilà. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en suis convaincu.
Merci, monsieur le Président.
Merci à vous.
C'est la fin de cette interview, donc, en direct du palais de l'Élysée. On va la débriefer ensemble.
Interview du chef de l'État.
Ouais, c'est ce que je viens de dire. Attends, laisse-moi parler. Voilà donc. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Je vous rappelle que demain, dans mon émission Backseat, je recevrai Laurent Berger, le patron de la CFDT, et je le ferai réagir à ce que vient de dire Emmanuel Macron lorsqu'il a dit que les syndicats n'ont rien proposé comme alternative à la réforme des retraites. Voilà. Ça fera partie des questions qu'on lui posera. On aura une longue interview avec lui. Il aura l'occasion de nous expliquer sa manière à lui de voir la crise que nous traversons actuellement. En tout cas, Emmanuel Macron donc s'est exprimé pendant 30 minutes dans cette interview diffusée en direct sur Twitch. L'occasion pour lui d'aborder quand même un paquet de trucs. C'était très attendu. C'était très attendu sur toute la partie appel à l'ordre, respect des institutions. Je fais la différence entre les manifestants syndicaux, je les respecte, ils ont le sens de l'ordre, etc. Et les casseurs, ce qu'il a appelé les factieux et les factions en République. Je rappelle d'ailleurs que demain, c'est un jour de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites partout en France. Donc Emmanuel Macron fait la différence entre les factieux, les violents, les casseurs, etc., qui manifestent depuis plusieurs jours maintenant un peu partout en France, et les manifestants qu'on a dans les jours de manifestation. Emmanuel Macron donc aborde comme seul regret le fait de ne pas avoir su expliquer la nécessité de la réforme des retraites. Il a essayé de l'expliquer au cours de cet échange avec les journalistes. Pas sûr qu'il ait vraiment réussi à faire passer le message auprès des opposants qui sont quand même toujours autant remontés. Il a renvoyé l'irresponsabilité des oppositions dos à dos en disant que les oppositions n'ont rien proposé comme alternative, que de toute façon les oppositions n'ont pas réussi à rassembler une majorité sur une motion de censure, donc il n'y a pas de majorité alternative à Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a rappelé sa confiance à la première ministre Elisabeth Borne et en même temps dit qu'elle devait élargir sa majorité. Il a parlé des Républicains à un autre moment de l'interview. Il n'a pas dit qu'Elisabeth Borne devait faire un accord de gouvernement avec les Républicains. Il a continué sur la méthode texte par texte. Je rappelle qu'hier soir, il y a eu un vote majoritaire sur la loi nucléaire. Donc il y a une volonté d'avancer texte par texte et d'avancer en gros à coup de 49-3, à marche forcée, pour reprendre le terme qu'il a dit, lorsqu'il n'y a pas d'accord qui peut être trouvé et que les réformes sont quand même jugées nécessaires par le président de la République et sa majorité. Emmanuel Macron en tout cas a parlé du sens des responsabilités en parlant de la majorité des Républicains au Sénat qui a voté la réforme des retraites. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Aucun mot sur les violences policières. Il n'avait pas dit un truc. Il a dit que le droit de manifester était protégé par la Constitution. Il a dit qu'il respectait les syndicats. On ne peut pas accepter ni les factieux ni les factions en République. Non, il n'a pas parlé spécifiquement des policiers. C'est Elisabeth Borne hier qui a rappelé le devoir d'exemplarité des policiers dans leur mission de maintien de l'ordre. Non, je sais plus. Il en a parlé ou pas? Il a parlé de création de 200 brigades de gendarmerie de partout sur le territoire. C'était pas que des gendarmes mobiles pour le maintien de l'ordre. Mais c'est dans le plan du Beauvau de la sécurité, ça on le savait déjà. Oui, alors pour le coup, quand il a dit « j'entends les manifestants », etc., il a quand même dit des choses intéressantes. Il a très clairement opposé les allocataires du RSA, le revenu de solidarité active, avec les salariés et les chômeurs, en disant que, selon Emmanuel Macron, les manifestants manifestent contre l'injustice que représente, selon lui, le fait que des gens, en gros, sont payés à rien foutre, ce qu'on appelle les allocataires du RSA, alors que d'autres sont au chômage et cherchent à bosser, etc. D'où le plan qui consiste à refaire bosser les allocataires du RSA, les retourner, les renvoyer vers la formation, vers l'insertion par le travail, etc.
Je ne suis pas absolument persuadé que ce soit une bonne idée de mettre cette notion-là dans la bouche des manifestants, alors que j'ai pas du tout entendu un seul manifestant reprendre à son compte l'idée de dire on manifeste contre les allocataires du RSA qui se tournent les pouces pendant que nous on trime. C'est pas vraiment le genre de truc que disent les manifestants. En revanche, Emmanuel Macron a ouvert la porte à une nouvelle loi qui devrait arriver dans les prochaines semaines, en tout cas qui va être négociée avec les partenaires sociaux, sur le partage de la valeur en entreprise. Et ça, clairement, ça va être la tentative d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron de reprendre la main sur le dialogue social et de reprendre la main sur le volet social du quinquennat autour de l'injustice. Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a une injustice au fait que des entreprises génèrent d'énormes profits en cette période et que les salariés de ces entreprises n'en perçoivent pas la couleur. Il parle, par exemple, il a donné l'exemple des entreprises qui dégagent de tellement bons profits qu'elles en profitent pour racheter leurs propres actions. Dépenser l'argent des entreprises pour augmenter le capital des entreprises, Emmanuel Macron est d'accord pour dire que c'est pas juste, donc il ouvre la porte à une négociation avec les partenaires sociaux pour une meilleure partage de la valeur. C'est peut-être la seule concession qu'il a fait au camp social dans cette interview. Il a aussi ouvert la porte à des négociations sur les salaires en faisant le parallèle entre le salaire minimum et le salaire médian en disant qu'il allait falloir mieux travailler sur les carrières. Ce qui, dans le jargon des négociations sociales, veut dire une meilleure progressivité du salaire au cours de la carrière. Donc Emmanuel Macron ne ferme pas la porte à une augmentation des salaires. En tout cas, il souhaite une réouverture des négociations dans les branches professionnelles concernées. Voilà. Il a parlé de l'usure aussi, tu as raison, l'usure professionnelle. Je rappelle qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas utiliser le mot pénibilité. Il l'avait dit pendant sa campagne, j'aime pas beaucoup le mot pénibilité, ça laisse entendre que le travail serait pénible, fin de citation. Emmanuel Macron parle de l'usure professionnelle, donc il souhaite également ouvrir des négociations sur une meilleure prise en compte et une meilleure rémunération sans doute de la pénibilité pour les travailleurs qui ont les métiers les plus pénibles. Vraiment, c'est juste pour toi que je me suis infligé ça. C'est gentil, ça me fait plaisir. Pense à t'abonner du coup, si ça vous a fait plaisir. Si vous me trouvez utile, n'hésitez pas. Pardon, excusez-moi, j'arrête de faire mon accro. Il a dit souhaiter. Oui, il a appelé le gouvernement à. Tchoum, tchoum, tchoum. Pourquoi faire ça après la réforme? Julien Bugier l'a relancé à plusieurs reprises là-dessus. Emmanuel Macron lui a dit, on le fait déjà, on a fait les assises du travail, etc. Donc bon. Merci pour vos follow, hein, d'ailleurs, pour les gens qui follow, soyez les bienvenus, etc. Je suis venu car je voulais entendre ce que disait Macron. Et ben voilà, comme ça tout le monde est content. Tac, tac, tac. Bon, Emmanuel Macron a-t-il réussi à apaiser les manifestants? J'en suis vraiment pas persuadé. Est-ce qu'il a été plus clair sur les prochains chapitres de la suite de l'année, des mois et des semaines qui viennent? Disons qu'il a utilisé un langage très diplomatique pour tendre la main aux députés Les Républicains qui souhaiteraient rejoindre la majorité dans un contrat de coalition. Il a tracé une forme de cap en rappelant les trois priorités de son quinquennat, la réindustrialisation, l'ordre républicain et le progrès en matière d'école, de santé et d'écologie. Ça pour le coup ça a juste le mérite de la clarté, mais il n'y a rien de nouveau particulièrement là-dedans, parce que c'est essentiellement, il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est enclenché des réformes qui ont déjà été décidées. Est-ce qu'on y voit plus clair? Pas des masses. Maintien d'Elisabeth Borne pour l'instant, il a dit qu'il laissait 3 semaines, 1 mois d'eau coulée. Suspension de la réforme de l'immigration, de la loi immigration, donc on va attendre quelques semaines. À mon avis, il faut s'attendre à ce que dans les semaines qui viennent, Emmanuel Macron reprenne l'initiative avec un remaniement ou un contrat de coalition, je sais pas. Avis sur la phrase, on passe trop par la loi. Moi, ça, c'est pas le seul à le dire, de dire que en fait, en France, on a des lois trop bavardes qui rentrent trop dans la technicité. Compte tenu du fait, en réalité, Emmanuel Macron dit ça, mais c'est surtout compte tenu du fait qu'il a une majorité relative, il a besoin de faire des lois plus courtes, plus claires et plus directes. Surtout dans un contexte d'obstruction parlementaire, hein, y a pas vraiment le choix. Donc des lois plus courtes, moins bavardes, qui permettent de donner plus de marge de manœuvre au gouvernement pour passer par le réglementaire ou par la négociation sociale. C'est aussi pour ça qu'il ouvre la porte à des négociations sur les salaires dans les branches professionnelles. C'est parce que ça a le mérite de ne pas avoir besoin de passer par la loi. Donc laissons les partenaires sociaux trouver eux-mêmes les règles. Ça évite d'avoir à passer par un 49-3 au Parlement. Pif paf pouf. Il a confirmé Borne, certes, mais il l'a pas franchement soutenu sur le long terme, j'ai trouvé.
Effectivement, il aurait pu en faire plus. Il a quand même soulevé le... Non, non, il a quand même souligné, il a quand même rappelé franchement sa confiance à Elisabeth Borne. Néanmoins, je te rejoins sur le fait qu'il a dit... en fait, il a dit « Elisabeth Borne a toute ma confiance ». Il n'y a pas de majorité alternative à Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, ce qui est vrai, on l'a constaté lundi. Pour autant, il a quand même dit qu'elle devait élargir sa majorité. Donc charge à Elisabeth Borne de négocier pour élargir sa majorité. Là, je pense qu'Elisabeth Borne, elle va être prise entre deux feux. Entre d'un côté les Républicains qui vont probablement mettre sa tête dans la négociation et peut-être demander à changer de Premier ministre pour avoir un Premier ministre davantage à l'air compatible qu'Elisabeth Borne. Et de l'autre côté, une partie de la majorité Renaissance qui, au contraire, souhaite maintenir Elisabeth Borne pour ne pas se retrouver avec un Darmanin ou un Le Maire en Premier ministre. Donc, à mon avis, Emmanuel Macron va encore être tiraillé entre la droite et la gauche de son mouvement. Son fameux mouvement de dépassement de la droite et de la gauche, si ça c'est pas ironique, mes amis. Bon, on verra. On verra. On verra. Clairement. Il parlait d'assurer le remplacement des profs à la rentrée alors que le ministre de l'Éducation a confirmé des suppressions de postes. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, parce que là, il parlait des brigades de remplacement, c'est pas la même chose. On parle de remplacement des enseignants qui sont malades, on parle pas de suppression, d'ouverture et de fermeture de classe. Ça c'est autre chose, c'est la démographie, c'est les négociations avec les élus locaux, les maires, etc. Mais oui, il y a des négociations en cours au ministère de l'Éducation nationale avec les syndicats d'enseignants. Alors je dis en cours, mais en réalité les syndicats ont claqué la porte des négociations, donc je vois pas très bien où ça va aller, mais en tout cas il y a une volonté de la part du gouvernement d'améliorer les remplacements des enseignants absents. Voilà. Selon toi, soutien du Conseil constitutionnel. Je vous redis qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du Conseil constitutionnel. Il y a très peu de chances que le Conseil constitutionnel considère qu'il est contraire à la Constitution de réformer les retraites. Non, ce n'est pas contraire à la Constitution, a priori, de modifier l'âge légal de départ à la retraite. C'est bien une compétence légale. On pourra discuter des marges, etc. On verra si la saisine de la NUPES est suffisamment bien écrite pour que le Conseil constitutionnel y trouve matière à censure, mais il ne faut pas trop y attendre. Voilà. Utiliser le 47.1 pour un projet de loi retraite, ça c'est pareil, hein, on verra ce qu'en dit le Conseil constitutionnel. Il y a peu de chances que le véhicule soit jugé inconstitutionnel. On verra, faudra entrer dans le détail, mais il y a peu de chances que le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution d'utiliser un budget rectificatif pour modifier les règles de l'assurance vieillesse. Je suis désolé, mais de prime abord, ce n'est pas contraire à la Constitution. On verra si peut-être que le Conseil constitutionnel va vouloir innover en mettant une limite à l'usage des budgets rectificatifs pour éviter de contourner la règle d'un 49.3 par an, peut-être. Et peut-être qu'on aura effectivement une nouveauté, une nouvelle jurisprudence constitutionnelle, j'en sais rien. On verra. Je ne comprends pas son propos sur l'absence d'alternatives sérieuses. Il me semble que la droite a proposé la retraite par capitalisation. Est-ce que ce n'est pas sérieux? Non, la droite, en tout cas, les Républicains, n'ont pas proposé la retraite par capitalisation. Y a David Linard qui a proposé ça sur des plateaux télé, mais David Linard, il est président de l'AMF, il est membre du bureau politique, je crois, des Républicains, mais il n'est pas député. Les Républicains, la droite républicaine, a négocié avec Emmanuel Macron la réforme. Ils ont fait passer plein de trucs, donc non. Là où il parle d'absence d'alternative, il fait référence à la NUPES. En gros, ce que dit Emmanuel Macron, c'est la gauche n'est pas crédible. Regardez, à part gueuler et bloquer, ils sont infoutus de faire des propositions sérieuses. Bon, évidemment, vous avez compris le jeu d'amalgame entre les manifestants et les casseurs, la gauche et la France insoumise, et même une partie de la France insoumise à l'Assemblée. Donc voilà, c'est le jeu auquel joue Emmanuel Macron. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Hein. C'est le principe, renvoyer à la caricature. Ces oppositions, c'est ce qu'ont toujours fait tous les présidents de la République, c'est bien normal. Mais du coup, il a dit qu'il n'y avait pas, de toutes les façons, pas d'alternative crédible, dans le sens où aucune motion de censure n'a été adoptée. Donc, en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est que, certes, Elisabeth Borne n'a pas de majorité pour faire passer sa réforme des retraites, mais l'opposition non plus n'a pas de majorité pour proposer une alternative. Sinon, il y aurait eu 9 voix de plus et ils auraient eu une majorité. Et à ce moment-là, les oppositions m'auraient proposé un gouvernement alternatif... avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans le même gouvernement. En gros, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Il n'y a pas de majorité alternative à la majorité relative d'Elisabeth Borne. Ça, c'est pour le jeu arithmétique du Parlement. Et pour le fond politique, ça, c'est une estimation personnelle d'Emmanuel Macron qui dit les oppositions sont irresponsables. Il n'y en a pas un qui est foutu de me proposer. Et en plus, c'est même pas vrai parce qu'il a reconnu lui-même qu'il y avait une alternative, c'est le déficit. Donc il a critiqué cette alternative. J'espère que vous comprenez bien la logique d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que parfois j'essaye de vous expliquer, non pas que je soutienne la politique d'Emmanuel Macron, c'est que j'essaye de vous expliquer sa logique telle que lui essaye de la mettre en place. Emmanuel Macron l'a dit lui-même, le but du jeu c'est la réindustrialisation. Pour ne pas empêcher la réindustrialisation et le plein emploi, Emmanuel Macron ne veut pas toucher au montant des impôts, au montant des prélèvements obligatoires au sens large, donc les impôts de production ainsi que les cotisations sociales. Donc, sans toucher à ces leviers-là, qu'est-ce qui lui reste comme levier sur lequel toucher ? Le travail, la durée de travail, donc la durée de travail tout au long de la carrière, donc le recul de l'âge légal de départ à la retraite, donc le fait de remettre les allocataires du RSA au travail, etc. etc. Il l'a dit lui-même, Emmanuel Macron, on a trop longtemps habitué les Français à avoir de plus en plus de droits sociaux en travaillant de moins en moins, c'est sa manière à lui de voir les choses, mais c'est comme ça qu'il l'exprime. Donc en gros, Emmanuel Macron, c'est le président qui veut remettre la France au travail, je mets des gros guillemets parce que c'est sa manière à lui de penser les choses, c'est pas la mienne mais c'est la sienne, remettre la France au travail pour laisser le pouvoir en 2027 en disant voilà j'ai remis la France au travail, les Français travaillent autant que leurs voisins, les Français produisent mieux que leurs voisins, la France est réindustrialisée ou en voie de réindustrialisation, le chômage est bas, badaboum badaboum, je suis le Gerhard Schröder français. C'est ça la volonté politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que les oppositions à l'heure actuelle sont en mesure de proposer une alternative? Pas encore. Marine Le Pen a échoué 3 fois à l'élection présidentielle et la NUPES a un problème de leadership. Ça, j'ai envie de dire, la gauche a un problème de leadership depuis 2 siècles. Donc pour l'instant, Emmanuel Macron, il profite du fait de la faiblesse de ses oppositions pour continuer à gouverner. Charge à la gauche de se rassembler, à l'extrême droite de continuer à se diaboliser, charge à chacun d'être meilleur. C'est un peu le fait mieux d'Emmanuel Macron, quoi. Deux décennies ? Oh non, 2 siècles. On peut le dire. Il nous fait une Thatcher un peu. Oui, enfin, il nous fait une Thatcher. Thatcher, c'est un contexte particulier. Hein. C'est vraiment les années 70-80, le virage néolibéral, etc. Là, Emmanuel Macron, dans un contexte particulier qui est celui d'une réindustrialisation européenne, dans un contexte de tripolarisation du paysage mondial, etc. Enfin, le contexte n'est pas tout à fait comparable. Mais oui, c'est une volonté de, il l'a dit lui-même à marche forcée, remettre la France au travail, réindustrialiser, plein emploi. Voilà. Si on va au plein emploi, comme il dit, on augmente les cotisations, on ne bouche pas le trou qui doit apparaître du coup. Hein ? Ben non, ce que dit Emmanuel Macron, c'est que si on augmentait les cotisations, ça pèserait sur le coût du travail et donc ça empêcherait le retour au plein emploi. Il y a qui dans la tripolarisation ? États-Unis, Europe, Chine. Et pays émergents. Réindustrialisation et enjeux climatiques, c'est quand même contradictoire. Alors bon, je te renvoie vers les projets de réindustrialisation Agnès Pannier-Runacher, etc., qui t'expliqueront que le gouvernement essaye de mener une réindustrialisation dans le cadre du respect des engagements bas carbone de la France, etc. Pourquoi avoir utilisé le 49.3 s'il y a eu 175 heures de débat, comme ils le soulignent tous ? Parce que, indépendamment du temps du débat, la durée du débat n'a pas permis de dégager une majorité. Ça, c'est indépendant de la durée. Alors ça, tu peux discuter 4 ans d'affilée si tu veux. Tu peux toujours ne pas mettre les gens d'accord. L'hydrogène, Macron a débloqué une enveloppe de 9 milliards. Ouais, ouais, non, il y a l'hydrogène, il y a le nucléaire, il y a l'énergie, il y a les batteries électriques, comme il l'a rappelé. Il y a la rénovation thermique des bâtiments, il y a quand même pas mal de choses, mais voilà. Justement, la crise climatique nécessite une réindustrialisation, notamment pour réduire notre empreinte carbone. Bah, ça fait partie effectivement de ce qu'explique le gouvernement depuis la crise du Covid, de dire on dépend trop de l'Asie pour fabriquer, y compris nos masques chirurgicaux et nos médicaments, c'est la preuve qu'on a aussi besoin de réindustrialiser pour relocaliser et pour produire plus proche de chez nous, etc. Donc effectivement, ça fait partie de la discussion autour des objectifs bas carbone. Pourquoi il n'aurait pas eu de majorité pour la loi alors que la motion de censure n'a pas eu de majorité ? Ben parce que justement, y a une différence entre voter une loi et voter une motion de censure contre un gouvernement qui soutient cette loi. C'est pas la même chose. Donc voilà, pas de grande annonce, mais un cap tracé par Emmanuel Macron qui se dirige vers, en tout cas Emmanuel Macron souhaite un retour au dialogue social dans le cadre d'une future loi sur le partage de la valeur en entreprise, une meilleure collaboration avec les Républicains qui ont soutenu la réforme des retraites. Pas grand chose de plus. Hein. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron annonce quand même donner 3 semaines, 1 mois. Donc en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est j'attends de voir ce qui va se passer demain, combien il y aura de manifestants, j'attends de voir ce que va dire Laurent Berger sur le plateau de Baxit, j'attends de voir comment évoluent les choses et je serai à même de prendre des initiatives dans les prochaines semaines. Il a rien dit par rapport à la bêta de Diablo 4. Non, il a rien dit. Je pense qu'il voulait aborder le sujet du barbare, mais il n'en a pas parlé. Il attend la bêta ouverte, je pense. Ouais, il attend la bêta ouverte. Il a dit à un moment nerf Yasuo. Là, on l'a entendu assez clairement. Bref. Donc voilà les amis, voilà pour ce stream, pour cette émission spéciale à l'occasion donc de l'interview d'Emmanuel Macron. Je vous invite à venir regarder demain à 19h mon émission Backseat. C'est un talk show d'actualité politique en plateau avec mes chroniqueurs, avec mes invités. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de la loi sur les influenceurs qui va arriver. On aura d'ailleurs sur le plateau les députés qui portent cette proposition de loi pour encadrer le travail des influenceurs. On aura des influenceurs également qui sont sur le plateau pour échanger avec ces députés et discuter des évolutions législatives sur le sujet. On va évidemment parler de la réforme des retraites. Et en invité politique, nous recevrons Laurent Berger, donc, qui est le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat du privé, qui réagira sur notre plateau en exclusivité à cette journée de mobilisation demain qui s'annonce historique. Donc je vous invite à venir demain sur le plateau de Backseat. Et si vous trouvez que c'est cool, une émission politique sur Twitch qui a de la gueule, n'hésitez pas à lâcher un petit don sur la page Utip. C'est grâce à vous, c'est grâce aux 3500 personnes qui ont déjà fait un don qu'on peut vous proposer cette belle émission. Donc n'hésitez pas à rejoindre les copains qui soutiennent. Faites un don, achetez un sweat, un t-shirt, mettez-vous bien. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été nombreux et nombreux à suivre ce live aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour vos abonnements. Ça va m'aider à payer les droits de diffusion pour cette interview. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je ferai peut-être un stream cet après-midi FAQ ou plutôt en début de soirée. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc, c'est pas certain. Je vous tiens au courant. Voilà. Je vous fais des bisous. À très bientôt, ce sera pas à 16h si je fais une FAQ. Hein. Mais à très bientôt, des bisous. Salut tout le monde, ciao, merci.